Avingen, où il y a la célèbre descente du Lauberhorn, vous voyez, ski mondialement connu. Moi, je l'ai fait X fois, mais naturellement pas en tant que compétiteur. Il y a un hôtel chrétien que chaque fois nous remplissons avec nos séminaires. Et le prochain est de vendredi prochain, 13, donc ça commence à 19h, jusqu'à dimanche, à environ 13h, et puis où les thèmes traités seront d'où vient la monnaie du monde, comment est-elle créée, quelle est sa vraie valeur, quel rôle jouent l'argent et l'or, que se passe-t-il dans le monde des finances, quels sont les dangers en relation avec les monnaies du monde, quelles sont les vraies monnaies, comment faire en cas d'interdiction de la monnaie, qui est en cours, hein, là. La monnaie, la monnaie du monde va être purement et simplement interdite. C'est déjà en cours en Suède, et puis on va arriver au chip là, dans la main. Donc, l'interdiction de la monnaie en cours en Suède, d'autres pays suivent, l'Union européenne s'y prépare. Quelle attitude face à la disparition de notre agriculture, paysannerie, avec comme résultat néfaste une dépendance grandissante envers les pays exportateurs, etc. Comment se préparer pour subvenir à notre nourriture de chaque jour? Comment se préparer au tsunami économique qui est devant la porte? Et d'ailleurs, je parlerai aussi de cette permaculture qui est une solution sensationnelle dans le domaine de production de nourriture. Voilà, juste pour vous dire, si quelqu'un est intéressé, en plus, c'est pas très cher, c'est pour les 3 jours... C'est dans les 400 francs par personne avec la nourriture, séminaire, hôtel, tout compris. Alors, et je crois qu'il y a encore deux chambres, je crois encore pour 4 personnes si jamais. Alors, ok, ici nous avons de nouveau ce passage qui dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir ». Vous voyez, c'est complètement illogique en relation avec l'enseignement du monde. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Est-ce que tout le monde doit tout vendre? Non. Il faut vraiment que Dieu te le dit. Il y a des gens qui ont fait. Dieu ne les a jamais demandés. Raymond, tu nous as fait des exemples hier. Le pasteur de gens qui ont vendu, etc. C'est aussi de la religiosité. Il faut être sûr que Dieu demande de tout vendre. Et non pas simplement dire, maintenant je vends tout, je veux obéir à ces versets, parce que là vous pouvez faire beaucoup de bêtises si vous obéissez à tous les versets. Donc il faut toujours l'éprouver dans la prière, dans l'écoute de Dieu. Et vous ne pouvez pas le faire seul. C'est beaucoup trop dangereux. Il faut minimum être 2, 3, c'est encore mieux. Et quand il y a un doute, quand quelqu'un a un doute, en cas de doute, jamais. Ça veut dire on refait un tour. Et on demande à Dieu, est-ce que vraiment ça vient de toi? Il y a des gens qui ont pris des décisions néfastes en pensant que c'était Dieu qui leur avait demandé. Puis Dieu leur avait. Quand on a creusé, ils m'ont d'abord dit, mais oui, Dieu a demandé. Quand on a creusé, tout d'un coup, ils disent, ah oui, mais tu as raison. On n'a pas travaillé proprement. Il faut travailler proprement avec Dieu. Et ce n'est pas compliqué. C'est quand, par exemple, vous songez à faire, créer une société, mais vous priez minimum à 2, encore mieux à 3, vous demandez à Dieu, est-ce que c'est vraiment, l'idée vient de toi? C'est un premier pas. Est-ce que tout le monde a le feu vert? Et puis si quelqu'un dit non, je n'ai pas vraiment le feu vert, mais dans ce cas-là, il faut redemander à Dieu. Et puis ensuite, on continue, on fait un business plan. Il dit, est-ce que vraiment ça vient de Dieu? Qu'on investisse maintenant tant pour faire ceci et cela, construire une usine ou je ne sais pas quoi? Et puis après, de nouveau, on peut demander à Dieu et puis il va répondre. Et de ce fait, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec qui on est associé. Je l'ai dit hier soir, si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas dans la foi, vous n'avez pas le privilège de pouvoir prier avec lui pour demander à Dieu. Et ça, c'est déjà une lacune qui peut être une grande lacune. Vous ne pouvez pas partager véritablement en profondeur avec lui parce qu'il ne connaît pas Dieu. Alors voilà, c'est pour cette raison qu'il faut toujours faire attention. Mais ce n'est pas compliqué, c'est beaucoup moins compliqué à ce que les gens pensent. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc Dieu est aussi un Dieu qui permet que nous pouvons en jouir. Après, on arrive à la troisième partie, c'est la gestion des dettes. La voici. Gestion des dettes. Maintenant, une dette achète aujourd'hui et paye demain. Et si possible, par le financement bancaire. Mais le royaume de Dieu dit que l'endettement est un fléau, une malédiction. Et puis elle est comparée à un esclavage. Moi, je l'ai vécu. Parce que l'endettement est accompagné de quelque chose que Dieu n'a pas prévu, n'a pas voulu. C'est les intérêts avec les intérêts composés sur les intérêts. Et c'est pour ça que Dieu a un problème avec les intérêts, parce que les intérêts génèrent des intérêts composés, c'est les intérêts sur les intérêts. Je vais vous faire un exemple. Si vous avez 100 000 euros que vous arrivez à les placer à 7%, ce qui est beaucoup, mais c'est l'exemple. Vous avez, après une année, vous avez 100 000 de capital et 7 000 euros d'intérêt, vous êtes d'accord? Vous avez 107 000. Mais la deuxième année, vous n'avez pas 114 000, parce que vous avez déjà 7% sur 107 000. Donc vous avez peut-être 115 200. Et puis l'année d'après, et puis ça monte. Maintenant, c'est exponentiel. Et c'est pour ça que Dieu ne veut pas d'intérêt, ne souhaite pas, sauf comme on a dit, quand au lieu de ne pas fructifier, multiplier, au moins créer des intérêts. Mais Dieu n'est pas un fan d'intérêt. Ici, vous avez après 10 ans, vous aurez 196 000 euros, après 25 ans, 542, après 50 ans, vous avez déjà presque 3 millions, grâce aux intérêts composés, les intérêts sur les intérêts. Et puis, qu'est-ce que vous pensez? Combien c'est après 100 ans? Personne se lance? Ben voilà. Vous voyez que les intérêts, proprement dit, représentent, après 100 ans, que 700 000 euros d'intérêt sur 100 ans. Le dépôt de base était toujours de 100 000, et vous avez sur 100 ans 700 000 d'intérêt. C'est 7% sur 100 000 fois 100 ans, ça fait 700 000. Mais les intérêts composés, c'est presque 86 millions. C'est quelque chose qui est injuste. C'est injuste. Ce n'est plus, on ne peut plus le recevoir avec notre mémoire, avec notre cervelle. Et si par exemple Joseph, le papa de Jésus, avait mis une pièce de 20 centimes euros à 5% jusqu'à l'an 1000, ça n'aurait pas été un énorme montant, mais en l'an 2000, ça correspondrait à plus de 1000 terres en or pur. On ne peut pas s'imaginer. Parce que c'est exponentiel. Vous voyez, quand vous mettez sur un échiquier, 64 cases. Vous mettez un grain sur le premier, deux sur le deuxième, quatre sur le suivant, ensuite 8 et 16. Moi, vous pouvez le faire avec même pas besoin de graines, vous notez le chiffre. Et vous voyez 30, 31, 32, 34, aucun problème, 40, aucun problème, 45, c'est pas spectaculaire. Et puis on est déjà à 45 sur 64. Mais ensuite, tout d'un coup, et c'est vers la fin, pouf! Et à la fin, ça donne des millions de tonnes de graines sur le 64. Donc, ce n'est pas juste. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas juste. Parce que c'est une folie pure. Et c'est pour cette raison que Dieu interdit, n'aime pas les intérêts ou les a interdits dans la Bible. D'ailleurs, la huitième merveille du monde, c'est le fondateur de la dynastie Rothschild qui l'a dit. Quand on lui a demandé, est-ce que vous connaissez les sept merveilles du monde? Il a dit, non, je ne connais pas, mais je connais la huitième, c'est les intérêts composés. C'est comme ça que les Rothschild ont fait du pognon. Il faut encore aujourd'hui. Les dettes, ici, on aura une... Oui, on peut vite regarder ça, je crois qu'on a... Oui, on va faire ça. On va regarder ce que dit un homme que je connais, qui enseigne les finances. C'est un très bon ami. Et je l'aime bien, ce type, parce qu'il il dit des choses d'une façon claire et nette. Moi, j'aime bien les gens qui ont un langage clair. Le voilà. Il n'y a pas de son? Est-ce que c'est chez moi? Bienvenue pour ce module 20 qui porte le titre « Qu'est-ce qu'une dette ?». Nous voici déjà à mi-chemin sur les 40 modules. L'endettement est d'actualité. Les États, les personnes, la population donc, est endettée pour ne pas dire surendettée. On parle de millions, on parle de milliards. Juste pour vous donner une image de ce que représente 1 million d'euros en billets de 100, c'est 1 mètre de billets entassés. Et 1 milliard, c'est 1 kilomètre, donc 1000 mètres. Maintenant, si je vous dis que l'endettement de l'État des États-Unis représente à ce jour environ 14 000 milliards de dollars, donc 14 billions, ou en billets de 100 dollars, 14 000 kilomètres entassés. C'est devenu absolument extrême et l'endettement continue encore à croître, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Nous avons le Japon qui a passé maintenant le cap de 225% de l'endettement par rapport à son produit intérieur brut. Les États-Unis sont maintenant pas loin de 100%. Mais en Europe aussi, nous sommes entre 70-80%, l'Italie 120%. Mais non seulement les États sont endettés, mais aussi la population. Et beaucoup, beaucoup de jeunes sont endettés par cette consommation qui nous est tous les jours servie dans la télévision ou dans les magasins. On n'affiche même plus les prix, mais on affiche la mensualité. Vous l'avez certainement déjà vu. Donc, on est véritablement tombé dans le piège tendu par Mammon. Qu'est-ce qu'une dette? Une dette est une obligation pour une personne à l'égard d'une autre de payer une somme d'argent. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que les factures que vous avez chez vous qui ne sont pas encore payées, est-ce que cela représente une dette? Non, si les factures sont payées dans le délai qui vous est accordé, par exemple, 31 jours. Mais dès le 32e jour, cela devient une dette. Est-ce que vous comprenez cela? Cela a une portée spirituelle en relation avec l'esprit de Mammon. Quand nous entrons dans l'endettement, nous ouvrons la porte toute grande à l'esprit de Mammon qui vient dans cette situation et qui va se faire un énorme plaisir de semer la cisanie. C'est pour cette raison que nous devons faire très attention comment nous gérons notre argent et comment nous gérons, par exemple, les factures. Donc, factures payées dans les délais accordés ne représentent pas une dette, mais le délai dépassé d'un jour, cela devient une dette. Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? La conséquence est que quand vous avez maman dans la maison et puis l'esprit de l'endettement, vous bloquez les bénédictions. Donc, faire très, très attention. Les dettes sont soit malsaines ou elles peuvent être en quelque sorte aussi saines. Alors, qu'est-ce qu'est une dette malsaine? Une dette malsaine est une dette sur consommation. Quand on achète toutes sortes de produits et puis on les achète à crédit, ça, ce n'est pas des dettes saines, mais des dettes malsaines. Une dette saine, est-ce que ça existe? Oui. En quelque sorte, ça existe, c'est quand la contre-valeur est une vraie valeur qui appartient à ce qu'on appelle des biens, donc attachés au royaume de Dieu. Vous vous souvenez quand j'ai parlé des valeurs, je parlais de l'agriculture, je parlais de l'immobilier, je parlais aussi de l'argent et l'or, etc. Donc, ce qui appartient ou ce qui est associé au royaume de Dieu, ça, c'est des biens. Et quand on a une dette sur un bien, par exemple sur une maison ou un appartement, ce n'est pas une dette malsaine si elle est dans de bonnes proportions. À ce moment-là, on a comme contre-valeur un bien et ça équilibre, pour ainsi dire, contre une dette malsaine. Donc la dette est en quelque sorte presque un peu comme sanctifiée. Que dit l'Écriture au sujet des dettes? Dans Romains 13, verset 8, il est écrit « Ne devez rien à personne ». Dans les Proverbes 22, 7, est très très clair à ce sujet. Il dit que la dette amène ou mène vers l'esclavage. Il est même écrit que le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte devient la proie ou l'esclave de celui qui prête. Donc, il est très très important de se désendetter le plus vite possible et dans la mesure du possible, même sur un bien immobilier. Au moment où vous prenez la décision de sortir de l'endettement, je vous recommande de demander pardon à votre Père Céleste d'avoir été un mauvais gestionnaire, un mauvais gérant. Et au moment où vous demandez pardon, vous savez ce qui se passe? C'est qu'il va vous pardonner et c'est que les écluses du ciel pourront s'ouvrir parce que vous enlevez le droit à l'ennemi, donc l'ennemi, le mammon, qui vient aussi avec l'esprit de l'endettement, vous l'éliminez de votre vie. C'est une démarche facile, mais c'est une démarche que je vous recommande vivement. Dans 1 Corinthiens 7, verset 23, il est écrit que nous avons été rachetés à un grand prix. Donc, il est écrit plus loin, « Ne devenez pas esclaves des hommes ». Donc, nous avons été rachetés, donc ne nous mettons pas sous un joug, ne devenons pas esclaves, puisque nous avons été libérés par l'œuvre de Jésus sur la croix. L'endettement est considéré comme une malédiction selon la parole. Nous pouvons le lire dans Deutéronome 28. Il y a plusieurs passages dans le Deutéronome 28 qui en parlent, surtout depuis le verset 15 jusqu'au verset 68. Il est dit à quoi amène la désobéissance. L'endettement est aussi en quelque sorte une désobéissance. Mais dans les premiers 14 versets, il est aussi dit que l'obéissance amène à ce que nous soyons libérés de dette et que nous n'empruntons plus, mais que nous prêtons à d'autres. L'endettement présume ou hypothèque l'avenir. Quand nous faisons un endettement, nous, en quelque sorte, nous hypothéquons l'avenir, parce que nous pensons, je peux prendre une dette et de toute façon, ça va rouler et je pourrai rembourser. Donc ça, c'est très, très dangereux de tomber dans ce piège. Je vous conseille de ne pas hypothéquer votre avenir. Il en est de même pour celui qui crée une société. Parce que créer une société, souvent, les gens pensent que ça passe par l'endettement. Et souvent des jeunes que nous coachons, que nous, donc, nous conseillons, que nous accompagnons, qui se mettent à leur compte, disent « j'aurais besoin de tant de milliers de francs ou d'euros pour faire ceci ou cela ». Et là, je peux dire « non, tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin d'une vision claire, confirmée par l'Éternel, et ensuite d'une stratégie ». Et l'argent, ce n'est pas le point important. Parce que vous savez quoi? Dieu haït l'endettement pour créer une entreprise. Et vous savez pourquoi? Quand nous nous endettons, quand nous recevons un crédit pour créer une entreprise, nous pouvons brûler premièrement des étapes. Ça veut dire nous pouvons aller plus vite à ce que le plan de Dieu prévoit. Et deuxièmement, nous donnons à Dieu même pas la chance de pouvoir pourvoir par un miracle, puis c'est la banque qui joue le miracle pour nous. Mais simplement, ce n'est pas un miracle positif, c'est un endettement négatif. Donc il faut faire très très attention de ne pas simplement faire appel au monde, comme le monde nous apprend, nous enseigne, mais d'entrer dans une dimension, je dirais, de collaboration avec ce Dieu qui est un Père, qui est riche, il est ultra riche et il nous aime à la folie, dit la parole. Donc pourquoi pas aller vers ce Père qui est énormément riche et lui dire « Papa, j'ai des plans, est-ce que ces plans correspondent à tes plans ?» Et vous savez quoi? Quand Dieu est d'accord avec vous, il fait de vos plans ses plans ou de ses plans vos plans. C'est aussi écrit dans la parole. Alors l'endettement peut priver Dieu d'une occasion de bénir. Faisons attention. Dans quel cas un emprunt est, je dirais, justifié? Mais c'est pour acheter, par exemple, une maison ou un appartement. Parce que si personne peut faire un appel à la banque pour acheter une maison, on aura encore moins de propriétaires à ce qu'on a actuellement. Et donc là, comme j'ai dit, on a comme contre-valeur un bien qui, en quelque sorte, assainit ou justifie la dette. Mais là encore, je dirais, trop souvent, nous ne donnons pas de chance non plus à Dieu. Nous allons directement à la banque et nous demandons un crédit hypothécaire. Mais pourquoi pas dire, « Papa, si cette maison que j'aimerais acheter correspond au plan que tu as pour nous, mais tu pourrais aussi ouvrir les écluses de la banque céleste. » Et j'ai vécu avec un jeune dessinateur que peut-être vous connaissez, Alain Audersay, une bénédiction magnifique où il a reçu une maison et la banque n'a pas voulu jouer le jeu. Et je disais gloire à Dieu parce qu'avec ça, nous avons vécu une magnifique aventure que peut-être je pourrais vous raconter dans un autre module. Donc l'endettement est un fléau, ne le prenons pas à la légère et essayons de sortir de l'endettement quand vous êtes dedans. Vous avez des possibilités de suivre un séminaire. À la fin de ces 40 modules, nous allons offrir des séminaires sur 6 jours, en 2 blocs de 3 jours, un peu partout, en France et ailleurs. Et moi, je peux vous dire, cela vaut la peine de déjà commencer à réfléchir et de déjà peut-être à vous préparer à dire oui, je veux aller apprendre comme il faut. Parce que ce que maintenant je vous donne, ce que nous donnons, lisez-moi, c'est des informations. Les informations sont très bien, mais elles doivent être suivies par la formation qui, elle, vous amène ou mène à la transformation. Et nous allons vous offrir cela. Voilà pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous dire et vous encourager de penser et de croire que tout est possible avec Dieu, même de sortir d'un endettement. Et vous savez pourquoi je peux le dire? Parce que j'étais dans plus de 100 millions de francs suisses d'endettement. Et l'Éternel, il arrive aussi avec ces chiffres-là. Je suis la preuve vivante. Et je dis gloire à ce grand Dieu. Soyez bénis, à la prochaine. D'ailleurs, les endettements que je signale ici dans ce module, cela a drôlement changé depuis, mais drôlement changé. C'est devenu complètement autre chose. Quand je parlais des États-Unis, vous avez vu, j'ai déjà dû corriger. Je parlais de 14 000 milliards. Et ensuite, on a corrigé, on a mis à peine, on avait enregistré, puis produit, c'était déjà 15 000 milliards. Mais maintenant, c'est 20 000 milliards. Est-ce qu'on a du Wi-Fi dans la maison? Bravo. Est-ce qu'il faut, il faut un code ou... C'est vrai? Tu le vends? Tu me le vends? Alors attends, je vais juste... je vais vous montrer quelque chose. Alors tu dis, c'est donc... est-ce que c'est local SCP? Voilà. Connecté, et puis c'est quel code? C'est pas celui-là?
Par contre, je sais pas si...
Ah, dis donc, vous avez le code, c'est là. Celle-ci, CIA qui vous l'a fourni. Et tu connais par cœur. C'est que des 6. Bravo, Raymond, bravo. Merci. Aïe, aïe, aïe. Lise, on s'est lancé dans quoi? Là, vous voyez un compteur qui tourne, c'est l'endettement américain. Là-haut, vous voyez l'endettement de l'État, US National Debt, 20 345 000 milliards. Ici, vous voyez l'endettement total des États-Unis entre État, industrie et privé. C'est 67 903 milliards. Donc, ce n'est plus une colonne de 12 000 kilomètres de billets de 100, c'est une colonne de 20 000 kilomètres, qui est plus haut que tous les satellites. Est-ce que vous pensez que ça peut bien finir? Mais écoutez, certainement que non. Oui. Ça ne peut pas bien finir. Il y a d'autres chiffres ici très intéressants, mais je voulais juste vous montrer. Là, on voit d'ailleurs la comparaison avec or et argent, qui est très intéressant aussi par rapport à l'époque sous le gold standard et aujourd'hui. Mais vous voyez ici que c'est une catastrophe et puis que l'endettement, il est par citoyen, il est maintenant l'endettement total de État, industrie et privé, c'est 8 000 dollars par personne, y compris les bébés. Ce qui fait par famille 818 000 dollars par famille. Mais il y a aussi ces savings, ça c'est l'économie, il y a quand même 6 079 dollars. Quand même, hein? Ça c'est donc un compteur officiel. Où il y a beaucoup de choses, il y a aussi les dettes des étudiants. Les dettes des étudiants, c'est 1 400 000 milliards de dollars. 1 400 milliards de dollars. C'est donc les étudiants un endettement qui est qui correspond à aux deux tiers de l'endettement de la France, uniquement les étudiants. Et puis vous avez le mortgage debt, ça c'est les hypothèques, donc les cédules hypothécaires, là il y a 14 000 milliards, etc. Juste pour vous montrer dans quel état se trouvent les États-Unis. Et puis quand j'ai dit le Japon était à 225%, ils sont maintenant à 250%, l'Italie était à 125%, ils sont maintenant à 137%, etc. Alors, nous sommes au slide 81 sur 162. Nous sommes pile poil au milieu. Vous êtes attaché? Très bien. Est-ce que vous avez pris vos pyjamas avec vous? C'est vrai? D'accord. Une vision pour le peuple de Dieu en relation avec la gestion des finances. Nous devrions apprendre lors d'une génération à devenir des gérants indépendants pour le compte de Dieu, devenir libres de dettes envers le système du monde. Vous savez, nous devons, les intérêts vont monter un jour. Les intérêts vont monter. Et donc, nous devons faire attention. Création de surplus pour pouvoir œuvrer comme un instrument de bénédiction. Donc, devenir des gérants indépendants. Pour le compte de Dieu, donc ne pas égoïstement travailler pour nous, sortir de l'endettement et création de surplus, ça veut dire devenir prospère, afin de pouvoir devenir un instrument de bénédiction pour d'autres. Il faut savoir, quand vous achetez une maison, les garanties qui sont demandées, c'est que l'objet, donc la maison, elle devient une sûreté réelle auprès du prêteur. Donc la banque va prendre le filet avec une cédule hypothécaire en premier rang. Elle a toutes les sécurités. Le débiteur, tu es solidairement engagé pour la dette. Ce qu'en principe, la Bible interdit, parce que ça vient à un cautionnement. Mais vous savez, c'est pour cette raison que je dis nous devons viser plus haut et ne pas simplement dire, comme je l'ai dit, qu'une dette hypothécaire n'est pas forcément une mauvaise dette parce qu'elle a une vraie contre-valeur. Mais nous devrions exiger que nous ne devenons pas co-débiteurs, mais que la banque ait que la maison en garantie, et c'est tout. Mais maintenant, si la maison perd en valeur et puis tu ne peux pas rembourser le crédit, maintenant tu passes à la caisse en ayant perdu la maison. Et c'est pour ça que j'ai dit, nous devons encore viser plus haut et puis de dire, mais si l'Éternel est riche et qu'il nous aime et qu'il est accessible, mais dans ce cas, pourquoi pas essayer, au moins lui présenter le même dossier que tu présentes à la banque, mais commence toujours avec une banque. C'est pourquoi? C'est une raison uniquement, je dirais, stratégique et de logistique, c'est que si tu vas auprès d'une banque pour demander un crédit, elle va te demander toutes les informations nécessaires, un dossier complet, blindé. Et Dieu aime aussi un dossier blindé et complet. Il y a trop d'enfants de Dieu qui viennent devant Dieu, un peu en image, comme s'ils vont à la banque, devant un guichet. Et le caissier derrière le guichet dit « Bonjour, monsieur ». Puis il dit « Bonjour, j'aimerais à peu près 200 000 euros de crédit ». Il dit « Mais combien exactement ?»« Oui, environ 200 000 ». Puis pourquoi faire ?« Oh, je vais faire du bien ». Mais c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu travaillent avec Dieu. Ils viennent et puis ils prennent. Je dis « Mais non, mais attends, tu ne sais même pas ce que tu veux exactement. Tu veux faire quoi de bien ? Mais quoi ?» Tu veux faire du bien, tu peux aussi faire du bien, tu nous invites, on va première classe en avion à Tahiti. Qui est de Tahiti? Alors voilà, on a été deux fois. On va à Tahiti, t'es en première classe, ça cartonne, hein? Pour nous, on n'a pas pris première classe, mais on a prié. Ah oui, ça c'est aussi un truc. Vous voyez, on prend l'avion pour Los Angeles, avec Suisse, avec Lufthansa, on part à Genève, à Düsseldorf. comme des simples chrétiens, on est en classe touriste. Économie, parce que voilà. Ah, mais je dis, avant, je pouvais me payer, j'aurais pu me payer première classe maintenant. Puis bon. Et puis, on arrive là-bas, Élise dit, c'est long depuis ici jusqu'à Los Angeles. Je dis, oui, c'est 9 heures. Ah bon? Elle dit, mais ce serait mieux hein, d'avoir business. Je dis, oui, ce serait mieux. Elle a dit, mais est-ce que tu es d'accord compris? Je dis, d'accord, alors, prends la main. Puis elle prie, oui, Seigneur. Elle a simplement dit, ce serait sympa de pouvoir voyager en business. Parce que c'est quand même un long chemin, puis ça nous fera du bien. Puis on est tes enfants. Merci. Merci, papa. Écoute, tu es d'accord? Je dis, oui, elle est entièrement d'accord. Dans le nom de Jésus, amen. Et j'entends au guichet des gens qui discutent et puis qui disent, non, mais attendez, c'est pas possible. Puis elle dit, mais je suis navrée, dit une des dames. L'avion est complet, c'était un jumbo jet. L'avion est complet. Et moi, je vais avec nos deux billets électroniques que j'avais déjà bookés 2 mois avant. Je vais quand même, puis j'ai dit, écoutez, j'entends que, mais c'est OK là pour nous. Puis elle regardait, oui, mais non, c'est bon. Mais par contre, monsieur, vous n'êtes pas ensemble. J'ai dit, comment pas ensemble? Il dit, oui, madame sera au fond et vous ici. J'ai dit, non. J'ai dit non. J'ai dit, écoutez, j'ai booké 2 mois, donc ça niette. Elle dit, oui, mais je suis vraiment navré. Je me suis dit, maintenant, je vais te montrer les dents. Puis elle dit, je suis vraiment navré. J'ai dit, écoutez, dans ce cas, c'est business. Elle a dit, petit instant. Elle est revenue, elle dit, c'est bon, ça, vous êtes en business. Mais pourquoi? Mais osez, mais il ne faut pas être agressive. Hein. Moi, j'étais un peu. Parce que j'ai dit non, attendez, hein, 2 mois, puis maintenant, il ne gère pas. Ça m'a énervé. De dire maintenant, on était ensemble. Ça, je n'accepte pas. Mais après, j'ai dit gentiment, mais business. Il y a de la place. Je sais, dans les jumbo, il y a pas mal de place en business. Alors voilà, donc, pourquoi. Ne pas présenter ensuite le même dossier. Mais écoutez, donnez-lui juste une chance. Mais juste une chance. Avec le même dossier qui est complet. Quand vous sortez du banquier, puis le banquier dit, je ne suis pas sûr, vous dites, c'est magnifique, papa. Ils ont dit non. Mais maintenant, c'est la vraie banque céleste, sans intérêt. Et vous lui présentez le même dossier, feuille par feuille, comme à vos banquiers. Vous dites, voilà, c'est ceci, puis c'est ça, puis ça, c'est l'estimation fiscale, ça, c'est l'estimation de l'assurance, et puis là, vous avez l'extrait du registre foncier, puis là, il y a ceci, puis là, ça, c'est donc l'acte naissance de ma grand-mère, ça, c'est l'acte naissance du grand-père, ça, c'est les informations que vous avez demandées sur mes arrière-grands-parents. Et puis tout ça, ce que la banque te demande, tu présentes à l'Éternel et tu dis, et maintenant, papa, tu te souviens de ce fou furieux, Kurt, qui est venu avec Lise. Il nous a raconté des trucs incroyables. J'avais de la peine, d'ailleurs, à croire. J'avais de la peine. Mais je crois qu'il avait raison, parce que ce qu'il a dit, et effectivement, ça figure dans la Bible. J'ai commencé à lire et j'ai fait un cours maintenant. Est-ce que je ne pourrais pas te voir à l'œuvre? Il a dit, te voir à l'œuvre, te mettre à l'épreuve. Mais pourquoi vous n'essayez pas? Vous risquez quoi? Vous ne risquez rien. Vous risquez juste que ça ne fonctionne pas. Mais pas plus grave. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pourquoi? Vous pensez que ça ne fonctionne pas, pourquoi? C'est parce que il n'a pas livré dans le délai que vous voulez lui imposer, et vous devez savoir quand vous avez commandé. Dans le monde invisible du royaume de Dieu, votre commande est enregistrée. Quand vous êtes à deux, à prier, il faut qu'un minimum de deux. Elle est enregistrée et vous pouvez dire merci comme si vous l'aviez reçue. Elle est marquée dans ma Bible et aussi dans la tienne. Mais que le délai de livraison appartient exclusivement à papa. Et qu'il est au plus tard à l'heure. Vous avez pigé? Ça veut dire quand tu as commandé, tu peux rester tranquille. Tu ne dois pas recommander, encore commander. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe si tu refais la commande ? Tu ne crois pas ? Puis que dit la Bible ? Toujours la Bible, Jean ? Et que dit la Bible exactement ? L'homme qui prie et qui ne croit pas est un homme insensé ou irrésolu et il n'obtiendra rien parce qu'il est ballotté. Voilà. Mais c'est la Bible qui le dit. Ça veut dire, ici, tu as commandé, c'est enregistré, et maintenant, si tu commandes vêtements auprès d'une société qui fait la vente par correspondance, tu remplis un coupon. Tu dis, j'aimerais ce sweater. Couleur bleue. Taille moyenne. Tu l'envoies. Et le lendemain, tu envoies de nouveau. Hein? Puis le surlendemain, de nouveau, ils vont te téléphoner. Ils vont dire, écoutez, vous voulez vraiment 12 fois le même sweater? On a reçu 12 cartes. Tu dis, non. Une fois, mais je voulais juste être sûr. Maintenant, est-ce que tu penses que Dieu va perdre une commande? Si déjà la maison devant par correspondance ne perd pas. Mais certainement que non. Mais quand tu pries et tu repries, tu invites Monsieur le Doute. Et Monsieur le Doute, il ne se laisse pas prier deux fois. Il vient dans la maison et il sème le doute. Le même doute qu'il s'aimait quand il était au paradis. Il dit, est-ce que Dieu vous a vraiment dit que vous ne pouvez manger d'aucun arbre? Il n'a jamais dit ça, Dieu. C'est comme ça qu'il a commencé la discussion. Le doute, est-ce qu'il vous a dit que vous pouvez manger? Elle a dit, non. Juste d'un. Donc, elle a déjà commencé à discuter, la Ève. Et après, derrière, il y avait l'homme qui n'a pas protégé sa femme. Et ceux qui accusent après que c'est venu par la femme, mais c'est l'homme qui n'a pas protégé sa femme, il s'est caché, c'était un lâche. 70% des hommes sont des lâches. Je le sais, parce que j'étais dans le travail des hommes. Et d'ailleurs, Gédéon est l'exemple. Il y a 140 000 Midianites qui attaquent, et Dieu dit, crée une armée, appelle les hommes, et puis il les appelle, il y a combien d'hommes ? 32 000. Et Dieu dit, vous êtes trop nombreux contre 140 000, et c'est... Et Dieu dit, vous êtes trop nombreux, ce ne sera pas pour ma gloire. Et il dit, vous pouvez le lire, demande à tous ceux qui aimeraient rentrer chez la mamie qu'ils peuvent rentrer, ceux qui ont la trouille. Et Gédéon dit, écoutez les gars, ceux qui ont la trouille, d'ailleurs c'est déjà un peu mouillé là, partiellement, vous pouvez rentrer chez vous. Et la Bible dit que 22 000 sur 32 000 ont dit, merci Gédéon. Victory, bonne chance. 70% des hommes sont des lâches. Je l'essaie de travailler avec les hommes. Après, il a dit, vous êtes maintenant 10 000, vous êtes toujours trop nombreux contre 140 000. Il a dit, maintenant, buvez de l'eau, faites-les boire de l'eau. Vous voyez, ils avaient des jupons à l'époque. Hein. Il a dit, buvez. Alors maintenant, voyez l'image. Ils se mettent à genoux pour boire de l'eau. Regardez, la jupe se lève. Vous voyez un peu l'image. Mais certains, eux, ils ont gardé la jupe en bas, ils se sont mis comme ça, ils ont tenu l'arme, comme moi, le micro, et ils ont tapé avec la main. Et ça, c'était 300. Les amis, 300 sur 32 000, c'est 0,97%. Et j'ai demandé à un ami pasteur, dont la fille est biologiste, Norbert Vallée, je ne sais pas si tu connais. J'ai dit, Norbert, ta fille est biologiste, j'ai une question. Peux-tu demander à ta fille combien de sel nous avons dans le corps, parce que nous devons être le sel? Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, je te dirai, demande. M'a téléphoné, elle a dit 0,97%. J'ai dit, compris. 1% d'hommes décidés gagnent n'importe quelle guerre. Moi, je fais partie. Mais il y a aussi des femmes qui sont les bienvenues. C'est ça qui est magnifique dans l'armée de Dieu. Ce n'est pas un privilège réservé aux hommes. Et nous avons des femmes qui font partie. Les trois là de Isolution, donc le IT, ils font partie, ils se sont levés. Ils ont dit, nous, on appartient à cette armée. Et on casse la baraque ensemble. Et tu ne dois pas être fort, tu dois juste prendre la décision. Donc, juste pour revenir, donner à la banque de céleste la même chance en présentant le dossier, le même dossier que vous avez présenté à la banque terrestre. Et demander à l'Éternel, est-ce que, papa, est-ce que c'est vraiment vrai? Et vous verrez. Vous verrez. Et puis ensuite, le délai, comme je dis, est une question qui lui, le timing lui appartient. Lise et moi, nous avons commandé une maison. Ça fait, je sais pas, ça fait 7 ans peut-être. Mais peu importe, ce n'est pas un problème. L'autre, quelqu'un dit, est-ce que vous avez reçu la maison que vous avez commandée? J'ai dit, non, non. J'ai dit, pourquoi tu te soucies pour nous? Non, mais, j'ai dit, non, pas mais. J'ai dit, si on l'avait reçue, on n'aurait pas su faire comment faire avec cette maison puisqu'on était tellement en route. On n'aurait pas eu le temps. Mais j'ai écrit à ce monsieur que n'était, moi, je n'avais même pas l'argent pour la compte, mais ça, c'est pas un problème. J'ai écrit à ce monsieur, écoutez, je suis intéressé à vendre, est-ce que vous êtes vendeur? Il a dit, non, c'est pas à vendre. Je me suis dit, tu vas encore voir avec mon papa. Il va te déplacer dans une autre propriété, il y en a plusieurs. Mais tout ça, le moment voulu, et nous y croyons, et nous disons régulièrement merci, comme si nous l'avions déjà reçu. C'est ça l'arme. Vous comprenez un peu les dimensions dans lesquelles on peut entrer, vous les jeunes. Vous pouvez aussi commander le futur mari. Vous l'avez déjà? Oui? Bien. Et toi? Peut-être. Voilà. Et puis, il faut être précis avec la commande. Est-ce que petit, rond, grand? Lisa avait des exigences. Elle voulait un guerrier, un combattant, mais qui est quand même gentil. Et en plus, d'aimer la même chose. D'aimer la même chose, ça c'est aussi important. On aime la même chose. On a le même langage d'amour. Parce que ma première femme, elle était heureuse quand je aidais à jardiner. Puis qu'est-ce que ça me faisait? Tandis que nous, on aime la même chose. Et pile poil, alors on peut vivre des trucs ensemble. C'est aussi très important. Alors, donc, on est solidairement engagé. C'est mieux si tu es solidairement engagé envers le Seigneur. Et en cas de faillite, l'objet est vendu par le prêteur, la banque, donc, et le montant manquant est dû par le débiteur. Il faut juste savoir. Ce n'est pas interdit d'avoir un crédit bancaire. Surtout sur un bien immobilier, parce qu'on a une vraie contre-valeur, comme j'ai dit dans la vidéo. Mais il faut aussi savoir qu'on prend des risques, puisqu'on est solidairement engagé. Il faut savoir. Et puis qu'on a aussi la possibilité de peut-être demander à la Banque Céleste. Ça veut dire, pas seulement, on a la possibilité de demander et puis de voir ce que Dieu va faire. Si nous n'avons pas encore reçu la maison... Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas un problème. Nous, on a la commande est notée, et puis on y croit. Autrement, tu peux classer la Bible et puis dire, ça ne vaut rien. Vous savez, il faut être ferme. De ce fait, il vaut mieux avoir des fonds propres en lieu et place de fonds étrangers, donc fonds venant de tiers, comme des banques et compagnie. Et quand c'est des fonds étrangers, par exemple de banques, forme de prêt, crédit hypothèque, doivent toujours être remboursés. Alors, quand vous avez un crédit hypothécaire, en Suisse, les banques ne veulent pas que tu rembourses en France et autre chose. Mais en Suisse, les banques ne veulent pas. Elles disent, non, pas besoin d'amortir. Mais on doit toujours amortir une dette. C'est très important de diminuer la dette. La constitution de fonds propres, donc de capital propre, c'est par performance économique, ça veut dire tu travailles, tu es entrepreneur, tu as un commerce, et par transfert de capital, héritage, donation, don, rente, mais aussi par abondance provenant de bénédictions de Dieu, par exemple, la bénédiction issue, venant de Dieu, ou bénédiction avec une multiplication de l'argent et de l'or, etc., etc. Qui est Dieu? L'argent, c'est quoi? Bon, Dieu est le créateur de tout, le Tout-Puissant, notre pourvoyeur, notre rédempteur, notre ami, le propriétaire des vraies valeurs. La monnaie, on l'a déjà vu, elle nous procure des ailes. Hein? Si tu as de la monnaie, ça on a aussi vu, vous vous souvenez? L'argent, c'est quoi? C'est un donc conservateur de valeur, mesure de valeur, moyen de paiement. Mais c'est quoi vraiment l'argent, la monnaie du monde? La vraie monnaie, on a la réponse dans AG2.8 que c'est l'argent et l'or qui sont à l'Éternel des armées, qui lui appartiennent. Dans la Bible, nous voyons 390 versets en relation avec argent, métal précieux, et 568 en relation avec or. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux tiers des versets, l'argent est mentionné prioritairement à l'or. Ce n'est pas un hasard. Le monde dit toujours l'or et l'argent, et dans la Bible, c'est pratiquement toujours l'argent et l'or. Et vous voyez la différence. Ceux qui ont compris les dimensions bibliques parlent de l'argent et de l'or. Et puis, je répète que nous devons nous rendre compte que nous vivons dans un monde déchu où Satan est le prince de ce monde. Il est fils de Dieu, dans Job. Il est le père du mensonge, il est le Dieu de ce monde. Par contre, nous, nous ne sommes pas de ce monde. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc là, il faut juste savoir que le monde est sous la puissance du malin. Mais ça ne doit pas nous impressionner plus loin, puisque nous avons un Dieu tout-puissant. Mais ce qui nécessite une hygiène spirituelle. La situation de la monnaie du monde, euro, dollar, franc suisse, etc., est bien décrite dans ce verset. Dans Matthieu 7, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est ce qui nous attend avec la monnaie du monde. Parce que cette monnaie n'a pas de valeur. Ici, vous voyez des millions de dollars. Ça, c'est 100 millions de dollars. Ici, vous voyez 1 milliard. Ici, vous voyez 1000 milliards. Mais ça, c'est un 20e de la dette de l'État et un 68e de la dette totale des États-Unis. Ça, et c'est des billets de 100 dollars. Et là, vous avez la situation en 2011, le compteur était à 14 000 milliards de l'état d'endettement de l'État des États-Unis. C'est ce que je parle dans le DVD. Donc 14 000 en 2011, et regardez ensuite en 2013, on était déjà à 16, presque 17 000 milliards. Et puis maintenant, en septembre, on est à dépasser les 20 000 milliards. C'est du jamais vu. Dans l'histoire de l'homme, un endettement pareil. Ça ne peut pas bien finir. Ça, c'est 20 000 milliards. L'endettement des États-Unis est à 20 000 milliards. Le PIB, le produit intérieur brut, vous voyez, ils ont dépassé les 100%. Ça veut dire, ça, c'est le montant que les Amériques produisent en une année avec l'industrie. Tout le monde ensemble produit ça, mais la dette, elle a dépassé, comme en France aussi. Et puis ici, vous voyez, l'endettement total des États-Unis entre État, industrie et privé, et là, vous voyez, par habitant, par personne, par famille, et puis encore les économies. Là, vous voyez la dette française, comme elle est montée. Et ce n'est pas fini. En 1976, la France était endettée de 22%. Après, il y a eu Mitterrand qui est arrivé au pouvoir. Ça a drôlement changé. Et là, vous voyez, maintenant, en octobre 2016, la dette, elle était tout près de 2 000 de 100%, puis maintenant elle a dépassé le 100%. Là, vous voyez la multiplication miraculeuse. Ça, c'est sur la base de banques européennes. Et la source ici, je l'ai indiqué, c'est Wikipédia. Donc, si vous déposez 10 000 euros à la banque, elle doit faire 2% de réserve minimale, 200 euros. Et elle doit faire 5% de quote-part argent liquide pour quand les gens viennent au guichet pour retirer leur argent. Oublions les deux, avec intérêt et sur dette. Prenons que les deux comptes pour le calcul. Alors, 10 000, elle doit mettre 200 et 500 de côté, donc 700, elle a 9 300 qui restent. Elle fait la même chose, elle peut faire ça 12,8 fois, presque 13 fois, avec comme résultat qu'avec une somme de 10 000 euros, elle peut prêter 132 811 euros. Vous voyez, c'est ça, après les 12,8 fois la procédure répétée, c'est elle peut prêter 132 000 avec 10 000, et puis elle gagne par année avec ça 4 500 euros. Donc c'est une bonne affaire. Et en plus, l'argent qu'elle produit, donc c'est de l'argent scripturaire. Donc, chaque banque peut créer de l'argent partout dans le monde. La caisse d'épargne du coin, elle crée de l'argent, donc des euros. En Suisse, c'est la même chose. Et puis en plus, la création d'argent aujourd'hui a lieu uniquement à partir depuis l'endettement. Alors, c'est complètement anti-biblique. Moi, j'ai parlé il y a quelques années à la Bourse de Zurich. Je parlais de ça, puis il y a des banquiers haut placés, UBS, etc., qui sont venus vers moi. Puis qui m'ont dit, on ne savait pas. Moi, j'ai dit, mais c'est la vérité. Ça veut dire, dans le monde, la création de la monnaie du monde, elle est issue de dettes, elle ne peut pas être produite ailleurs. Ça veut dire, tu vas à la banque, tu demandes un crédit pour acheter une voiture ou une maison, et puis sur l'ordinateur, il crée le montant. Et puis c'est 20 000 ou c'est 500 000, suivant ce que c'est, existent, n'ont pas existé avant. Et puis c'est une monnaie scripturaire. Elle n'existe pas imprimée sous forme de papier. Or, dans le royaume de Dieu, la création de monnaie, elle était issue du bien, ça veut dire à part de or et argent. Et là, je parle or parce qu'or avait plus de valeur pour la création et argent. Alors, on avait quelque chose qui fonctionnait, qui était basé sur des valeurs bibliques, un enseignement biblique. Tandis qu'aujourd'hui, nous avons le mensonge du diable de créer à partir de rien. À partir de l'endettement, ce qui est encore pire. Et ça, les gens ne savent pas. Et quand vous ne le savez pas, vous êtes dans l'ignorance. Alors voilà, donc, on a ça. Ensuite, on a la bulle spéculative. Donc ça, c'est des dérivés, c'est de l'air, ça veut dire c'est de la spéculation. Tout ça, c'est de l'air, ça vaut rien. C'est une grosse bulle qui va exploser un de ces prochains. Après, vous avez ici les rentes qui sont en très grand danger. Après, vous avez les actions, donc les sociétés qui sont là. Et après, vous avez les vraies valeurs, c'est là, c'est or et argent. Là, nous voyons que les vraies valeurs sont insignifiantes, c'est 1%. On vient de nouveau à l'armée de Gédéon, 1%. 1% de combattants, 1% de sel. Et là, nous avons le même chiffre de 1%. C'est très intéressant. Quel genre de monnaie avons-nous? Nous avons une monnaie sans contre-valeur, sans justice. Elle n'appartient pas à Dieu, elle appartient au monde. Et Jésus, il en a parlé quand il a dit « qu'est-ce qu'il y a là-dessus ?» Et à l'effigie de César, il a dit, ben, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qui produit le dollar? C'est la Federal Reserve, c'est une banque privée, là, donc la grande Federal Reserve. Elle a un nom qui est une tromperie de premier ordre, mais c'est les sept banquiers les plus riches qui se sont réunis en 1910 pour créer, là on a les noms, pour créer cette banque qui existe toujours aujourd'hui, puis qui appartient toujours à environ 14 familles, il y a toujours les mêmes, les Rothschild, les Rockefeller, etc. Les Morgan, aussi les Lehman Brothers, on les a d'ailleurs ici, non 12, pas 14, c'est, ils sont là. Et après, il y a encore d'autres actionnaires. Eux, ils gagnent des montants faramineux, sans imposition, bien entendu. Et ils produisent la monnaie. Ils produisent des dollars sans contre-valeur. On appelle ça des fiat monnaie. Fiat, c'est en latin, qui veut dire faisons-le, let it do. Fiat, ça n'a rien à voir avec la marque Fiat. C'est la, faisons-le. C'est une monnaie sans valeur, une fausse monnaie. Là, on a l'endettement USA, Japon, zone euro. Là, nous avons une masse monétaire en explosion, ce qui est le risque avec ce qui se passe maintenant, parce qu'attention, la Banque Centrale Européenne, elle a injecté 85 milliards par mois et maintenant elle a diminué à 60 milliards par mois de fausse monnaie par Mario Draghi. Mais qu'est-ce qui se passe si vous mettez un produit sur le marché à outrance? Qu'est-ce qui se passe avec le prix? Mais oui, le prix baisse. C'est vite. Le prix baisse. Donc, plus ils mettent la monnaie, plus ça dilue la valeur, et puis plus le prix de la monnaie baisse. Ça veut dire, un jour, comme on a vu en Allemagne, il y avait 35 milliards de Reichsmark en circulation, puis après ils ont imprimé comme des fous furieux. Il y avait plusieurs milliers d'hommes qui faisaient jour et nuit de nouveaux billets, et là j'ai dû mettre des raccourcis, vous voyez, 28 000 billions, ça fait un saladier, hein. Puis 400 trillions. Les trillions, c'est 18 zéros. Trillions. 21 zéros. Après, il y a quadrillion avec 24 zéros. 21 zéros. Juste pour compter à un milliard, il faut compter pendant 30 ans. En comptant chaque seconde un chiffre, au début, ça va vite. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, mais compter à 671 256, 671 257, ça va un peu moins vite. 30 ans. Mais chaque seconde. Et là, c'est des millions d'années qu'il faut. Un marque en 1920, on pouvait acheter avec ça du beurre, de la viande, plus encore le pain. Ensuite, on a dû faire des 1000 marques, 1000, et puis après, on a imprimé par-dessus un milliard. Et puis après, on avait tout ça comme stock de monnaie jusque là-bas, puis on a dû mettre un panneau Rauchen verboten. Je comprends pourquoi. Et le type qui fout le feu ici, c'est à la banque, c'est pas triste. Hein? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une monnaie sans garantie, sans valeur, sans justice. Nous sommes dans le virtuel. Voilà le genre de monnaie que nous avons. Et la Bible dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? On voit que la monnaie de Dieu pendant 3000 ans, il y avait toujours argent et or. Du temps des pharaons, l'argent était trois fois inférieur à l'or. Ça veut dire l'or valait trois fois plus. Après, l'or valait neuf fois de plus, jusqu'à 12, 9 fois 12. Et pendant l'Europe, pendant 2000 ans, on peut dire c'était entre 9 et 16. Donc l'or valait 9 à 16 fois de plus. Et aujourd'hui, ça va jusqu'à 70 fois. Ça varie de 40 à 70 fois moins pour l'argent. Ça veut dire qu'il y a un problème, ce n'est pas juste cette comparaison. Ça veut dire que l'argent a du retard par rapport à l'or, du point de vue voleur, point de valeur, et va rattraper l'or un de ses prochains. Quel rôle joue l'or? On avait le gold standard jusqu'en 71. Donc, où le dollar comme monnaie de référence pouvait pour une once d'or qui était stockée dans les trésors de sur la Federal Reserve ou dans le célèbre dépôt de le nom m'échappe, où ils ont la plus grosse quantité d'or, les Américains, c'est le... Ça va revenir. On pouvait, pour une once d'or, donc 31 grammes, on pouvait imprimer 35 dollars. Donc une once d'or valait 35 dollars. Et on a aboli ça en 71 par Nixon. Et aujourd'hui, si en 1970, une once d'or valait encore 35 dollars, aujourd'hui, on voit, elle vaut 1250 dollars. Ça veut dire 36 fois de plus vaut l'or par rapport au dollar. Alors, il faut, ou autrement dit, il faut 36 fois plus de dollars pour acheter de l'or qu'en 1970. Et un dollar de 1970, il vaut aujourd'hui encore 3 cents. Ça veut dire la monnaie du monde a perdu le 97%. Le gold standard, c'est quand Dieu dit l'argent est à moi et l'or est à moi, et puis on prend l'argent et l'or comme couverture sur les monnaies, on a un triangle. Ça veut dire on a une vraie valeur. Et ça, c'est fini. Et là, on a des vérités historiques que en l'an 600, avant Jésus, avec une once d'or, on pouvait acheter 350 kilos de pain. Et aujourd'hui, ça vient à peu près au même. Alors, on voit que la valeur, la puissance de l'achat, ne comparez jamais or et argent avec le cours actuel en monnaie du monde. Les gens qui disent, oh, tu as vu, maintenant l'or a diminué. J'ai dit, diminué par rapport à quoi ? Par rapport à l'euro, je dis non, mais parle pas d'euro. Oui, mais aussi en franc suisse, je dis parle pas de franc suisse. Puis en dollars, je dis encore moins. Je dis mais arrête. De toute façon, c'est des valeurs qui ne sont pas des valeurs. C'est des contre-valeurs. C'est du faux papier. Donc ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Ne peut pas comparer argent et or, sauf à des biens nécessiteux comme, par exemple, pain. Ou ici, une tunique, vêtements et immobilier, etc. Et là, on voit que ça n'a pas bougé. Et d'ailleurs, l'argent, métal précieux, est prédestiné pour l'achat de nourriture, les besoins journaliers de l'homme. C'est comme la manne, elle est d'ailleurs en surface de la terre. Et l'or est destiné à l'achat important, on a acheté des esclaves, des maisons, etc. Et les deux appartiennent à Dieu. La destruction de la monnaie de Dieu, argent et or, ont été en plusieurs phases. D'abord, on avait argent et or en pureté divine. Quand Jacob a envoyé ses fils acheter de la nourriture chez Joseph en Égypte, ils avaient de l'argent métal précieux dans les sacs. Et ils payaient avec ça. C'était de l'argent pur pour acheter de la nourriture. Et ensuite, on a commencé à mettre des effigies du monde dessus, donc des images. Mais Dieu est un Dieu jaloux, dit la parole. Donc il n'accepte pas ça. C'est pour ça que Jésus a dit, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Donc César, donnez-lui ce qui appartient à César, puis donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'était une explication donc très très claire, qu'on ne peut pas comparer Dieu avec quelqu'un d'autre. Ensuite, on a fait des alliages, avec comme résultat qu'à la fin de l'Empire romain, il y avait encore 2 à 3% d'argent et de l'or dans les pièces d'argent et d'or. Donc c'était une tricherie. Comme aujourd'hui, il n'y a plus rien dedans. C'est un alliage qui ne vaut rien du tout. Rien. Et puis l'euro, encore moins que la tôle suisse, du point de vue qualité. Mais la Suisse avait, jusqu'en 1969, elle avait les pièces de 50 centimes, 1 franc, 2 francs et 5 francs en argent pur. Et puis une pièce de 5 francs argent pur, aujourd'hui, vaut 8 francs. Et puis c'est juste seulement un début de prise de valeur. Donc c'est très intéressant. Et après, on voit qu'on a enlevé l'argent, et puis après, on a dit qu'on n'a pas assez d'or pour le boom économique, avec la guerre du Vietnam, et puis on a aboli le gold standard qui était voulu par Monsieur le Diable. Je vais un peu vite parce que c'est un peu un truc. On devrait avoir plus de temps. Je fais dans le séminaire ce week-end, là, je parle aussi de ça, même plus en profondeur, mais il faut pour cela vraiment une explication comme il faut. C'est un tout petit peu difficile en une journée parce que je vous ai assez bourré le crâne. Mais on voit ici de nouveau que le diable, il voulait nous faire croire que nous pouvons devenir riches grâce à une économie virtuelle. Ça veut dire que nous n'avons plus besoin de travailler et que nous pouvons créer à partir de rien. Mais création depuis rien est un privilège qui appartient à l'Éternel. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas, c'est un grand mensonge. Les réserves d'or et d'argent, environ 140 000 tonnes d'or, 30 000 tonnes d'argent, donc presque 5 fois de moins, même qu'on exploite 20 000 tonnes d'argent par an contre 2 000 tonnes d'or, on a quand même à peu près 5 fois de moins. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui pourrait se passer, Sarah ? Oui, c'est pour ça qu'on récolte 20 000 tonnes d'argent et que 2 000 tonnes d'or, et il y a quand même 5 fois moins d'argent.
On utilise plus l'argent que l'or. On utilise plus dans l'industrie.
Yes, en industrie, et puis ça, c'est, pour ainsi dire, perdu. Ça tourne autour de la Terre, c'est dans nos ordinateurs, c'est dans nos téléphones portables, partout, il y a de l'argent dedans. L'argent est le meilleur conducteur. Non, l'argent est le meilleur conducteur. L'argent est le meilleur conducteur pour toutes les conduites électriques. Oui. C'est pour ça que l'argent, on ne peut pas le remplacer. L'argent est le roi dans ce domaine-là. Vous savez, il y a des idées qui me viennent. Les francs-maçons ont essayé. Les francs-maçons me font rire. Les francs-maçons ont essayé. Déjà, les pauvres, ils cherchent la pierre des philosophes. Les pauvres. La pierre angulaire. Parce qu'ils aimeraient absolument construire le nouveau temple, les pauvres. Mais la pierre angulaire, c'est Jésus. Donc, ils peuvent chercher autant qu'ils veulent. Ils ont aussi essayé de créer de l'or artificiellement, les pauvres. Mais ils ont abandonné au moment où ils ont vu que ça coûterait plus cher que d'acheter de l'or. Tu ne peux jamais imiter et reproduire quelque chose que Dieu a créé. Tu ne peux pas. Les vraies valeurs de Dieu, on ne peut pas les copier. Et ces valeurs, on les trouve dans l'au-delà. Argent, or, on roulera sur des pavés en or. Et l'autre jour, aussi en France, il y a une dame qui a dit, puis les diamants, qu'est-ce que vous pensez les diamants? Qui considère que c'est un bien, qui est un vrai bien de Dieu, une vraie richesse? Lève la main. Et puis qui pense que non? Ah, il y a des abstentions. Il suffit de regarder dans la Bible où tu vois que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de mention diamant avec toutes les richesses qu'on trouve. On trouve le diamant dans l'Ancien Testament, mais c'est l'ornement des grands prêtres comme ornement. Alors maintenant, tu peux te poser la question. Et puis cet homme me dit, mais pourquoi? J'ai dit, qu'est-ce que c'est le diamant? Le diamant, c'est du charbon. Et le charbon fait quoi quand il brûle? Il brûle. Et puis qu'est-ce qui reste? Des cendres. Toutes les valeurs de Dieu résistent au feu, fondent, l'argent fond, mais toujours là. L'or fond, toujours là. Le saphir va fondre, toujours là. Mais le charbon luxueux, loin. Première explication. Et la deuxième, qu'on peut produire le diamant artificiellement. Et tu ne peux pas faire ça avec les vraies valeurs de Dieu. Et cette âme a dit, mais dans ce cas, je vais vendre mes... Elle est venue après vers moi, et puis elle me dit, je vais vendre. J'ai dit, oui, je crois que c'est une bonne idée. Elle a dit, mais j'ai hérité de ma maman. J'ai dit, non, mais il ne faut quand même pas exagérer. J'ai dit, vous avez hérité un diamant de votre maman, vous gardez. Mais j'ai dit, celui qui met sa fortune sous forme de diamant, il faut juste lui dire que ce n'est pas vraiment une valeur qui appartient à Dieu, même s'il peut éventuellement un jour le vendre, mais il recevra quoi? Il recevra de la monnaie du monde. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et puis, si cette monnaie perd sa valeur, t'es terminé. Mais quand tu as de l'or, tu ne vends pas pour la monnaie du monde, tu gardes. Et quand tu as de l'argent, tu ne vends pas, tu gardes. Donc, tu as la vraie monnaie. C'est ce que nous devons savoir. Ça, ce week-end, je vais de nouveau... Ils étaient boostés, les gens qui ont fait le dernier. Parce qu'à la fin, j'ai dit, vous devriez tous... Ils n'avaient pas fait un séminaire finance que vous allez commencer. J'ai dit, vous devriez tous faire après un séminaire finance. Et j'ai dit, on a des collaborateurs. Ça, c'est le Saint-Esprit qui téléphone. Raymond, c'est toi qui réponds ou c'est moi? Et puis, donc, j'ai dit, vous devriez faire des séminaires finance. Et puis, j'ai dit, on a des collaborateurs. Et puis, vous pouvez le faire. Il y avait un petit silence. J'ai dit, vous voulez pas? Et ils ont dit, si, si. Et il y a un qui a dit, mais on aimerait faire avec vous deux. Ah, mais j'ai dit, vous savez, nous ne pouvons pas être partout en même temps. Il a dit, mais si on vient tous? 34 personnes, j'ai dit... Mais tu parles au nom de qui? J'ai dit, parce qu'il viendrait si on fait un séminaire, nous. Tout le monde a levé la main. Moi, j'ai dit, alors, OK, on fait ça en Allemagne, chez Fünfschilling en janvier. Parce que si on a à ce moment-là, on peut faire comme on faisait à l'époque, des séminaires sur plusieurs jours. Et ce que vous allez faire en petit groupe. Et c'est clair. C'est clair, c'est encore une autre dimension. Mais déjà, ce que vous allez faire avec le kick-off que vous avez aujourd'hui, c'est déjà pas mal, je peux vous dire. Donc, continuez comme ça. Mais ça montre que les gens ont soif, faim et soif. Alors voilà, cela à ce sujet. La Chine, elle est devenue le numéro un avec 12 100 tonnes de réserves d'or, un des plus grands détenteurs. On ne peut pas dire que c'est le numéro un, parce qu'on ne sait pas exactement combien d'or existe. Qu'est-ce que vous pensez? Quel peut être le pays qui a le plus d'or, probablement? Mais c'est difficile à estimer, parce qu'il faudrait éplucher plus d'un milliard d'habitants pour voir combien ils ont chacun. L'Inde. Alors là, on pense que l'Inde, c'est encore plus, mais c'est réparti entre plus d'un milliard de pertes. Disons, milliard, il y a des pauvres qui n'ont rien, mais même s'il n'y a que 300 millions ou 500 qui ont de l'or, ça fait déjà du bruit. Et vous voyez, donc, les Chinois, qui sont un pays communiste, ont compris qu'ils ne font plus confiance au dollar parce qu'ils sont assis sur 3 700 milliards de dollars, qu'ils ont de la peine à vendre. Et puis, ils ont peur que les Américains pourraient dévaluer. Ils pourraient se rembourser les dettes en créant une hyperinflation comme les Allemands. Et là, c'est affaire classée. Et donc, ils commencent à acheter, quand ils encaissent des dollars, puis c'est toujours la monnaie de référence mondiale. Alors que la camelote qu'ils vendent, qui est payée en dollars, ils les transforment en or. Ils ne sont pas bêtes. Pour des communistes, ils ne sont vraiment pas bêtes. Mais par contre, ils dépensent tellement d'argent qu'ils ont un endettement qui est colossal. Et puis la Chine, je prétends, va se casser la figure aussi. Puis après, vous voyez, les USA qui ont 8 000 tonnes, l'Allemagne 3 400, le Fonds monétaire 2 800, l'Italie 2 400, la France 2 400 et la Suisse 1 040. Chez nous, les imbéciles que nous avons eu à la tête il y a quelques années, il faudrait que je croise une face parce que, il a un chalet à côté d'un ami où on va souvent dans les montagnes. Et je vais les toucher un mot à cet imbécile. Il a vendu la moitié à un prix catastrophé. Il a dit, c'est de l'or superflu. Moi, je vais lui dire, vous aussi, vous êtes superflu, vous, avec vos idées. Quand on a, c'est dramatique quand on a des gens comme ça, des dirigeants. Mais voyez, quand vous avez des dirigeants qui n'ont pas de vision, qui va périr? Alors, le peuple. Oui, ça, c'est des trucs, ça m'énerve quand on a des... Quand on a des rigolos qui dirigent des pays qui n'ont aucune idée. Là, vous voyez que les paroles de l'Éternel sont comparées à de l'argent éprouvé et cette fois épuré. Donc, ça montre l'importance que Dieu donne à l'argent métal précieux. Est-ce que ça va encore? Vous avez pas de la peine un peu? C'est vrai? En tout cas, je vois pratiquement tout le monde est réveillé, je crois. Donc, je n'ai pas besoin. Non, Lise, tu peux. Pas besoin. Parce qu'on a un pistolet à eau. Pas rempli. Mais tu fais plus comme la dernière fois, elle l'avait rempli avec de l'acide. Oh, mais ça, c'était. Pouf. Alors là. Le pistolet, non, mais on a, il est en. Léonore, c'est comme les deux femmes, les deux amies qui se vaillent dans un tea room, et puis l'une dit à l'autre, moi j'ai vraiment, vraiment un mari en or. Et l'autre dit, tu as de la chance, le mien t'entole. Ce qui est intéressant, que l'argent, métal précieux, le tabernacle, il avait 40 pases. Et puis, ils l'ont isolé avec des pieds en argent. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, dans ce tabernacle? Les lois. Les tables de loi. Donc, c'est vachement important. C'était très, très important. Mais pourquoi maintenant, il est isolé? Pourquoi il a des pieds en argent? La condensation. Mais pourquoi? Oui, mais... Non, mais avec les pieds en argent, je pense que tu t'enfonces plutôt plus que si tu mets du bois. Oui, mais ça ne l'humidité. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup d'humidité dans le désert. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec le sol? Quand il a chassé Adam et Ève, il a maudit. Donc le sol a été maudit. Et puis maintenant, on vient avec la caisse qui contient les lois. Et on les pose, on pose tout ça sur un sol maudit. Non, mais Dieu a dit à Moïse, tu mettras de l'argent. Donc, il a dit, tu isoles. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'argent qui est utilisé pour isoler contre le mal. Parce qu'un sol maudit est mauvais. Et ce qui est intéressant, c'est l'argent colloïdal. Nous avons un appareil, tue 650 bactéries en 5 minutes. Vous savez, quand j'ai une attaque, ou lise, de refroidissement, j'ai l'appareil à la maison, il coûte pas cher, 120 €, un truc comme ça. Il y a deux bâtons en argent, électriques. J'achète de l'eau distillée, mais d'une pureté médicinale. Donc, ne pas le truc que vous utilisez pour la batterie ou... Hein, pardon? Je n'ai pas compris, rempli de. Ah, c'est de, disons, nous, c'est une pureté de l'eau distillée, d'une pureté médicale, médicinale. Donc, on demande ça, puis voilà, ils commandent, en principe, ils n'ont pas en stock. Parce qu'il faut, avoir, voilà, il faut avoir de la bonne eau pour ça. Et ensuite, on met, on a une tabelle, on chauffe d'abord l'eau, ce qui est bien pour savoir la plus d'efficacité, on met les deux bâtons dedans. Et on met le compteur, et puis Et moi, je fais 4 décilitres en 25 minutes, et puis j'arrive après à 25 ppm. Et puis de ça, il est recommandé, il y a des livres écrits là-dessus par un biologiste allemand. Je pense qu'il existe aussi en français. Et puis on boit 3 fois 10 cuillères à café par jour. Et puis tu bombardes l'attaque, le nez qui commence à couler après, en principe un jour après, c'était terminé. Mais autrement, ça dure plus d'une bonne semaine. Donc voilà. Donc on connaît l'argent pour la santé. On connaît aussi les pansements en argent. Donc on voit que l'argent est un produit pour anéantir le mal. On a vu qu'il isole comme on a vu, le tabernacle contre le sol maudit. Ici, on voit que l'argent colloïdal. Et on voit d'ailleurs dans les deux premiers et dans les deux derniers chapitres de la Bible, l'or est mentionné, mais pas l'argent. Maintenant, il faut savoir que dans ces 4 chapitres, dont les deux premiers et les deux derniers, donc ici, Genèse, ici, l'Apocalypse, c'est les seuls chapitres où le péché n'existe pas encore dans Genèse et puis dans l'Apocalypse plus. Alors, et puis l'argent n'est pas mentionné. Ça veut dire comme si l'argent avait anéanti le péché. Et nous pouvons aller plus loin. Vous savez, c'est très très intéressant. C'est très très intéressant quand vous prenez la naissance. Donc d'abord, Salomon, ici dans 1 roi, on voit que Salomon recevait 666 talents d'or. Le chiffre vous parle, non? 666. Donc chaque année, ça fait 20 tonnes d'or. Mais on voit aussi que rien n'était d'argent, on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Pourquoi? Parce qu'un peu plus loin, on voit, et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui était apparu 2 fois. Au moment où Salomon s'est détourné de l'Éternel, il a jeté dehors tout ce qui était en argent. Yes! Mais les amis, c'est des choses qui devraient nous parler. Le monde ne connaît rien et l'Église d'ailleurs ne connaît pas non plus. Je n'ai rencontré aucune église sur cette terre qui connaît ces vérités. Et ce qui est aussi intéressant, quand on parle des sangbleus, les sangbleus, c'est ceux qui buvaient essentiellement des liquides dans des récipients en argent. Et l'argent donne comme une couleur bleutée au sang. Alors, c'est très intéressant. Alors, on voit ici, de nouveau, que Salomon, qui se détourne de Dieu, il déteste l'argent. C'est comme si le mal ne peut pas résister, ne pas être confronté à l'argent. Et c'est la même chose avec la monnaie. La monnaie ne peut pas résister à l'argent. La monnaie du monde qui est sans valeur. Et là, vous voyez, quand les fils de Jacob se rendent en Égypte pour acheter de la nourriture, ils payent en argent, métal précieux. Et quand Jérémie est en prison, Dieu lui dit d'acheter le champ d'Anatote pour 17 cycles d'argent. Et quand Jésus est venu dans ce monde, il a été accueilli avec de l'or. Mais quand il a accompli l'œuvre contre le mal, quand il a vaincu le mal, il a été vendu contre de l'argent. De nouveau l'argent. L'argent était payé pour l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix, où il a pris tous nos péchés. C'est de nouveau l'argent qui est en jeu. Ensuite, nous avons le message qui dit « Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, il a été reçu avec de l'or. » Là, on voit, ils l'ont vendu contre 30 pièces, comme ça. Que pouvons-nous faire? Est-ce que perdre nos biens ou les faire fructifier? Ceux qui n'ont rien, ils ont le moins de stress. Hein. C'est peut-être un peu plus simple. Tant que j'ai rien, j'ai dit, mais voilà, tant que... Mais tu peux dire à quelqu'un qui a que tu as entendu la vérité. Mais ceux qui ont, devraient faire attention de ne pas simplement laisser passer le train et dilapider par une mauvaise gestion, mais plutôt prévenir au lieu de guérir, au lieu de tout perdre, et devenir ainsi un instrument de bénédiction dans des temps difficiles qui sont devant nous. Par quel cheminement? Par entrer dans l'obéissance, selon Deutéronome. L'obéissance est la clé et le code d'accès au coffre-fort de notre Seigneur dans lequel il a les bénédictions. Investir. Je crois qu'il y en a de trop, hein? Dans les valeurs appartenant au royaume de Dieu, parce que les valeurs de Dieu résisteront à toute crise. Mais investir où? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. C'est quoi la teigne et la rouille? Vous connaissez la teigne. Vous connaissez la rouille. Mais ici, on parle de déflation et inflation. Ça, c'est une... La Bible parle de teigne et rouille, mais nous pouvons le traduire inflation et déflation. Puis après, il y a encore des voleurs. Mais investissons dans le ciel. Mais dans le ciel, on investit comment? Mais quand on investit dans l'homme, ou quand on utilise son bien, sa fortune, pour investir dans le royaume de Dieu, en aidant d'autres, en achetant une maison où on peut loger du monde, en faisant ceci et cela, ou de la terre. Et là, encore une fois, où sont les vraies valeurs? C'est ce qu'on a déjà vu. Homme, agriculture, immobilier, entreprise gérée selon les principes publics, argent et or. Et encore une fois, ici, on veut forcer la multiplication. Et là, Dieu la donne dans tous les domaines, y compris dans l'argent et l'or. Suis-je vraiment prêt de continuer à laisser gérer mes biens par le monde? Bien sûr que non. Ou est-ce que je suis décidé de faire tout mon possible pour que mes biens puissent être utilisés dans le règne de Dieu au lieu d'être perdus dans ce que j'appelle le casino mondial? Suis-je conscient qu'avec l'aide de Dieu, des solutions valables sont accessibles? Moi, je dis le temps presse. On ne sait pas si c'est demain, après-demain. Dans un mois, dans 6 mois, dans 1 année, dans 2 ans, mais le crash va venir. Et ça va être un crash retentissant, il y a des prophètes qui le prédisent. Donc, nous devons faire attention de transformer nos valeurs en danger, tout ça, en valeurs divines. Je vais parler ce week-end aussi de ces valeurs-là. L'État français peut maintenant confisquer à tout moment les assurances vie quand il veut, puis aussi les avoir, c'est décidé. Ah oui, oui. Ah oui, c'était décidé. Chez vous, il n'y a pas de votation comme en Suisse. Chez vous, on décide. C'est le roi à l'Élysée qui peut décider avec quelques acolytes, et puis c'est affaire classée. Ça va très vite. Donc, priorité, mise en sécurité de nos biens, parce que nous ne devons pas. Nous ne devons pas simplement nous laisser faire. Dieu a des solutions. Et puis ensuite, investir dans le royaume de Dieu. La vérité. Argent et or sont les moyens de paiement avec une vraie et réelle contre-valeur. Il s'agit de la monnaie de Dieu. Comment y parvenir? Sortir du système du monde en investissant justement dans les vraies valeurs qu'on a cité, homme, etc. Mais il y a aussi, si quelqu'un dit, mais je ne sais pas dans quel homme je peux investir, je n'ai pas une maison en vue pour acheter, et je n'ai pas un domaine agricole, mais dans ce cas-là, peut-être, ou pas seulement peut-être, mais moi je recommande de transformer la monnaie du monde, qui n'est rien d'autre que de la richesse, qui appartient au système du monde, et la richesse n'est pas protégée par Dieu, de la transformer en bien appartenant au royaume de Dieu, dont fait partie la monnaie de Dieu qui est argent et or. D'ailleurs, depuis l'an 2000 à aujourd'hui, l'euro a perdu environ 75% de sa valeur en comparaison avec argent et or. Donc, il faut une monnaie de Dieu, ça veut dire qu'il faut la création d'une monnaie de Dieu qui n'appartient pas au système du monde, qui n'a pas d'effigie, comme César et compagnie, et une monnaie avec une vraie valeur et une vraie contre-valeur qui appartient aux vrais biens qui font partie du royaume de Dieu. Et puis on peut dire que Dieu, il révèle des paroles éclairées et il les donne de l'intelligence au simple. Donc ce n'est jamais une question d'intelligence. Et puis en plus, Amos dit que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes ou ses esclaves, des fois écrits. Maintenant, dans Apocalypse, puis avec ça j'arrive au bout, c'est une révélation très puissante. On voit qu'ici, il va y avoir les plaies successives où il y a les cavaliers. Là, il y a le cheval noir qui est suivi d'un cheval verdâtre. Et il est écrit qu'un quart de la population va mourir de faim. Un quart de la population, ça peut représenter environ 2 milliards de personnes qui vont purement et simplement mourir de faim, pour ne pas dire crever de faim. Et ici, dans cette période, il est écrit que on payera une mesure de blé, on payera un denier, et trois mesures d'orge, aussi un denier. Ça veut dire Dieu nous donne le prix dans cette période-là. Et vous voyez dans l'histoire biblique, quand il y a eu des famines, les prix sont montés comme ça. On a vu sa Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les prix sont montés à un niveau inouï. Et dans la Bible, on peut lire qu'on payait des prix complètement faramineux pour une tête d'âne qui était en état de décomposition. Et ils ont même acheté des nids d'oiseaux avec le caca dedans pour manger. C'est dans la Bible. Et puis les mamans ont cuit leurs bébés pour les manger. Oui? Dans la Bible. Et alors maintenant, qu'est-ce que vous pensez si un quart de la population mondiale va mourir de faim? Est-ce que vous pensez qu'une mesure de blé qui représente environ 1,2 kg de blé panifiable, qui représente la quantité nécessaire pour une famille biblique, donc avec plusieurs enfants, pour un jour. Combien les gens payeront pour ça? Est-ce que c'est 100 euros, 1000 euros, 500 euros, 2000 euros? Les gens payeront n'importe quel prix avant de mourir. Et là, Dieu nous donne à nous les enfants, et le monde ne le connaît pas, et l'Église non plus. Il dit, dans ce temps-là, vous payerez un denier pour une mesure de blé. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'est une mesure. Une mesure est 1,2 kg. Et un denier, c'est 3,9 grammes d'argent. Donc, avec une once d'argent qui pèse 31,1 grammes, ça fait 8 fois de plus. On pourrait, avec une once, qu'aujourd'hui on paye sous forme de lingot, je crois que c'est environ 23, 24 euros, disons là, autour de ça, on pourrait acheter pour 8 jours de nourriture. Est-ce que nous sommes préparés? Nous, oui. Et beaucoup, beaucoup de gens aussi au sein d'alliances où nous avons développé ces stratégies, oui. Alors ça veut dire, on est avisé par Dieu, on est vraiment préparé par Dieu, combien ça coûtera et comment faire pour ne pas tomber dans ce piège. Et là, il y a une nutritionniste qui c'était aussi en France qui a dit, oui, mais Monsieur Bullman, on ne peut pas très bien vivre de blé uniquement. Et j'ai dit justement, là, il y a, si vous continuez à lire dans Apocalypse, vous lisez un peu plus loin, Dieu dit, et il parle au Satan, et tu ne toucheras pas à l'huile et au vin. Ah oui, avec de l'huile, effectivement, là ça joue, puis avec du vin, je dis oui, ça c'est Dieu le fait pour que nous puissions faire un bon pain avec de l'huile d'olive, et puis on peut encore boire un verre de rouge pour faire la Sainte Cène. Tout est prévu. Elle était satisfaite, elle a dit oui, ça marche. J'ai dit oui, Tout marche avec Dieu. Il a pensé à tout. Il n'est pas merveilleux. Des fois, j'entends un alléluia. Alors, voyez, donc Dieu a tout prévu, tout est sous contrôle. Mais est-ce que nous entrons dans ces dimensions? Ça, c'est donc avec des amis allemands, des chrétiens que j'ai connus lors d'une conférence. Dieu travaille toujours d'une façon intéressante, qui sont approchés. Puis on travaille depuis quelques années, depuis je crois 6 ans, 7 ans ensemble. On a créé notre propre monnaie. Ça, c'est une once d'argent. Et ça, en allemand, c'est marqué « Mein ist das Silber, mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. » Et puis on l'a aussi en français, puis en anglais. Et puis après, c'est marqué « AG28 » et puis 31,1 grammes, et puis pureté 999,5. Et de l'autre côté, on l'a en hébreu. Alors maintenant, il n'y a pas d'effigie du monde. Il y a une vérité biblique. Et nous avons demandé, aussi bien en Allemagne qu'en Suisse, parce qu'il fallait, les certifier pour que ça soit reconnu. Et puis, alors on les a produits, les premiers, tamponnés, parce qu'après c'était prévu de les faire sous forme de fondu. Donc, mais là, on a tamponné, on a créé un truc, et puis voilà, puis on a présenté. Et puis le responsable de la direction générale des douanes et des finances a téléphoné et a demandé, oui, ça a l'air d'être bon, c'est de l'argent pur. Il y a juste une question, est-ce que vous les avez c'est fondu ou est-ce que c'est pressé? On dit, c'est un modèle qu'on a pressé, il a dit, dans ce cas, je peux l'autoriser. Parce qu'autrement, non, vous seriez entré en conflit avec les règlements bancaires, parce que les banques sont très costauds. Alors on se dit, ben, très bien, maintenant, on les presse. Alors ils coûtent, de ce fait, je crois, entre 3 et 5 % plus cher ce que vous achetez auprès des banques. Mais on s'en fout de ça. Là, on n'a aucune allusion au monde. Aucune. Et donc ça... C'est quelque chose que nous recommandons aux gens de précieusement garder chez eux, non pas dans un coffre bancaire, jamais, jamais, bien caché à la maison. Parce que le coffre bancaire, quand les banques feront faillite, ça va être effet domino. Au plus tard, quand la Deutsche Bank se casse la figure avec 50 000 milliards de dérivés dans le portefeuille, c'est le numéro 2 derrière JP Morgan. Mais je peux vous dire, nos amis allemands vont de nouveau pédaler pendant un bon moment pour rattraper ça. 50 000 milliards de dérivés, la Deutsche Bank, elle est foutue. C'est aussi simple que ça. Si elle bascule, les autres banques vont basculer, effet domino, et puis les banques seront fermées, scellées, tu n'entres plus à ton coffre-fort, donc, out. Petite banque à la campagne, à la limite, oui. Encore mieux à la maison. Et non pas dans un petit trésor où tu penses que c'est sûr. Oui, achète un petit trésor, remplis-le avec tes bibles en kosovar, en roumain, etc., qu'il soit lourd, et quand ils le l'ouvrent au bord de la forêt, ils ont de la lecture intéressante. Mais tu le caches à côté, sous le bois de cheminée ou sous les casseroles, mais jamais dans la chambre à coucher. Voilà, c'est donc des questions qu'on nous pose. Et on a un policier dans notre association qui est celui qui donne de bonnes idées. Ça existe aussi sous forme de médaille, médaillon, aussi en hébreu. Et puis voilà, Deutéronome dit que tu verras ton argent et ton or s'augmenter. Et puis là, vous avez Alliance, où vous pouvez aller sur le site, où vous trouvez beaucoup d'informations intéressantes. On a même des cartes visite, si jamais, hein, je crois, Lise, on a des cartes visite, si jamais. Alliance, si quelqu'un est intéressé, vous pouvez aller dessus. Parce que nous, ce que nous faisons, nous ne sommes pas les vendeurs. Mais ce que nous faisons, tous les gens qui viennent dans un séminaire chez nous, comme ça, et puis qui s'intéressent, on les accompagne pour qu'ils savent pourquoi ils achètent, et non pas que simplement que leur est vendu un produit, et puis il y a un autre... point, c'est que nos amis allemands ne parlent pas le français. Ça veut dire que nous assumons ce rôle que nous accompagnons ceux qui sont de langue française. Et puis, n'oubliez pas que 1 Timothée nous met en garde que ne pas faire à ce que l'argent devienne notre amour. Parce qu'où est-on? Où est ton cœur et ton trésor? Donc il faut juste faire attention et ici, je reviens à Matthieu 6, 33, et puis je vous pose juste la question. Ça veut dire non, je vous encourage à mettre tout ça dans la prière. Parce que c'est quand même, vous savez, c'est des révélations puissantes que très peu d'enfants du Dieu les connaissent. Et puis c'est important de les connaître. Maintenant, question, réponse. Oui.
À ça, justement, en 2014, j'ai donc souscrit chez Alliance pour mettre un talent d'argent dans les réserves suisses. À quel moment ce sera le bon moment de le faire amener, de le garder à la maison plutôt que là-bas?
Alors là, j'en parle de... À part ces lingots et médaillons, nos amis allemands ont aussi créé... un système qui est comme un compte bancaire. Ça veut dire on achète des granulés d'argent que nous appelons le silver deposito, S deposito. Et ces granulés d'argent ont l'avantage, ont deux avantages, trois avantages même, en tenant compte qu'ils sont entreposés au port franc de Zurich. Ça veut dire les granulés sont environ 30% moins chers que les lingots fabriqués. Parce qu'il n'y a pas la fabrication qui est chère. Point 2, c'est beaucoup plus facilement revendable avec beaucoup moins de pertes ou pas de pertes parce que c'est des granulés de base. Parce que si tu vends ton lingot ou ton médaillon, l'acheteur va te payer le prix de la matière première. Parce qu'il dit, moi, le lingot, ça ne me sert à rien, je dois encore le couper en morceaux. Alors, tandis que les granulés, c'est tout petit, c'est beaucoup mieux pour lui, parce qu'il peut mieux les fondre, mieux les utiliser. Ensuite, il y a un autre avantage, c'est que, vu que c'est entreposé au port franc en Suisse, en dehors de l'Union européenne, où la Suisse n'adhérera jamais, gloire à Dieu, 85% des jeunes disent « niet ». Il y a seulement encore quelques politiciens qui sont dépassés par les événements, qui rêvent d'adhérer à l'Union européenne, mais ça ne se fera pas. Et de ce fait, nos amis allemands ont décidé d'entreposer ces granulés au port franc de Zurich, où tu ne payes pas la TVA, et puis où c'est assuré, bon, il y a une commission à payer par an, parce que c'est assuré contre vol, feu... C'est contrôler quantité, qualité, où tu reçois chaque année confirmation par une instance complètement indépendante, qui c'est des sociétés de contrôle qui disent, au nom de M. Jean, il y a tant de tonnes de granulés avec une telle qualité, pureté 999.5, etc. Et après... Tu as deux fois par an un extrait avec le compte, quelle est la situation à ce jour. Tu ne dois jamais, jamais les sortir, Jean. Jamais. Parce que tu les vends à l'intérieur. Tu veux faire quoi quand tu prends les granulés à la maison? Ça ne te sert à rien.
Oui, mais justement, tu disais que la réserve pour une semaine... Pour
une... Non, mais là, il faut acheter des lingots. Là, il faut acheter des lingots ou des médaillons. Ça, c'est la réserve de guerre que je te recommande. Nous recommandons... Pour une famille, en tenant, ça va maintenant, tout ça je vais parler ce week-end qui vient, on parle des périodes de tribulation qui durent une semaine, vous souvenez, c'est ce qui est 7 ans, etc. Donc on a calculé, on arrive à 741 par famille, ce qui est environ 15 000 euros pour toute une famille, si quelqu'un peut. Ça, c'est l'idéal. Et avec ça, il a, pendant toute cette durée, pour acheter de la nourriture, encore pour d'autres personnes et encore des réserves pour faire d'autres achats et compagnie. Donc, c'est un calcul que nous avons reçu. Mais par contre, les granulés, c'est au lieu d'avoir ton pognon dans une banque avec sous forme d'euro ou dollar ou franc suisse, peu importe, qui est en très grand danger et qui peut être à tout moment confisqué. Parce que maintenant, avec les banques, c'est justement ce week-end où je vais parler aux gens, puis les gens sont étonnés. Maintenant, il n'y a plus le bail-out, ça veut dire que ce n'est plus l'État qui sauve une banque, mais c'est le bail-in. Ça veut dire que quand une banque est en faillite, elle peut, chez les détenteurs de comptes, les actionnaires et ceux qui ont des obligations, elles te piquent ton pognon et elles transforment en actions. Tu reçois une gentille lettre que vos 120 000 euros sont transformés, vous êtes maintenant actionnaire. Voilà, exact. Et puis donc, nous devons retirer le pognon, les amis, pour sortir. Non, mais les chrétiens vont perdre des montants phénoménaux parce qu'ils n'ont rien compris. Et nous avons un Américain qui a acheté. Vous connaissez Georgina Dufoy? Bon, Georgina Dufoy, ex-ministre sous Mitterrand, elle fait des rencontres de Nîmes. Toujours de 25 personnes au placé qu'elle a invité. Puis moi, j'étais deux fois comme orateur. Ce sont des très bons amis, les Dufoy. Et là, elle m'a présenté un Américain qui a acheté un appartement chez eux. Et ce type a dit, « Yes, Kurt, would you come to the prayer breakfast ?» Donc, le prayer breakfast où il y a Obama et toute cette équipe-là. Puis ça ne m'intéresse pas du tout. Alors franchement, qu'est-ce que je veux aller à New York pour... Et puis, bon, j'ai gentiment dit, malheureusement, non. Elle a dit, je t'invite. J'ai dit, non, malheureusement, on n'est pas libre. Heureusement, on n'était pas libre. Puis je lui ai parlé, il a dit, mais tu es dans quoi? Puis j'ai parlé des finances, et puis etc. Puis le monde, il a dit, mais non, c'est pas aussi grave. Georgina m'a dit qu'elle a tout perdu, elle a dû vendre son appartement. Fini! À la retraite, tout! À la bourse, en 2008-2009. Hein? Poutsé! Liquidé, chrétien. Et c'était seulement, les amis, ce qui est arrivé en 2008-2009, c'est juste, ce n'est pas l'opéra, c'est l'ouverture de ce qui va venir. Ça veut dire que nous devons vraiment, vraiment nous préparer. Et puis, ce n'est pas compliqué. Alors donc là, des gens qui ont du pognon sur des comptes bancaires, je dis, mais arrêtez. Ou acheter un domaine agricole ou une baraque. Si vous trouvez à un prix raisonnable, ah oui, non, mais l'immobilier est trop cher, et puis la paysannerie, agriculture est très protégée en Suisse, tu ne peux pas seulement acheter un domaine, et puis des sociétés gérées selon les principes bibliques dont tu nous parles, ils n'ont pas besoin d'argent, on a demandé, ils ont dit on marche tellement bien. J'ai dit, mais oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, mais transforme le pognon du monde en pognon de Dieu, et puis tu le déposes au port franc, et ensuite... Quand tu as besoin, tu revends les granulés et puis tu ne payeras jamais la TVA, qui est quand même pour vous 20%, que vous ne payerez jamais. 20%. Tu ne les payes jamais, puisque si tu ne sors pas les granulés physiquement, tu ne payes jamais. C'est ça le génie. Tu ne payeras jamais, puisque tu vends à l'intérieur si tu as besoin de liquidité. Et maintenant, on met en place avec une carte crédit pour qu'on puisse aussi utiliser le S-Deposit avec une carte crédit. Le jour où l'argent va être interdit. Et puis maintenant, on met en place encore un truc, et j'ai une séance bientôt avec l'équipe, où on met en place le barter, ça veut dire l'échange. Ça veut dire, on va créer petit à petit, mais Dieu va accélérer ça. Ça veut dire, toi tu as un garage de voitures, tu fais partie, lui il a un commerce... dans tout ce qui touche les habits. Elle a un commerce de tout ustensile pour la maison, donc les ménages, etc. Et puis après, on peut faire des achats. Que moi, j'achète une voiture chez toi, je paye avec des granulés, tu as un compte. Toi, tu achètes chez lui des vêtements ou chez elle, etc. Donc, on commerce entre nous. Et les amis, on va être prêts avec un système parallèle à Monsieur le Diable avec le 666. C'est ça que nous devons mettre en place. Non, nous les chrétiens. Mais des fois, j'ai l'impression que les chrétiens vont à l'abattoir avec les autres, mais moi, franchement, je ne suis pas le bon candidat. Je ne suis pas le bon candidat. Et tu ne devrais pas être le bon candidat non plus. De simplement suivre et de simplement te laisser avoir par monsieur le diable. Et nous avons tout pour ne pas tomber dans le piège. Autre question? Plus de questions? Si, si. Oui? Un peu plus fort. Prends le micro un peu plus près, le micro. Plus près. Oui, voilà. Ah, d'accord. Merci.
Comment vous pensez qu'elle va se passer la transition de la monnaie à la monnaie de Dieu pendant la période de crash?
Alors, beaucoup de monnaie du monde va être perdue. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens vont purement et simplement tomber dans le piège. Je dirais la toute grande majorité. Et je me permets de dire que j'ai une petite idée quand je dis ça. Parce que comme on est un peu en contact avec beaucoup de chrétiens, je vois que le message n'a absolument pas passé. Et puis ça arrive que même dans certaines églises qui sont très religieuses, que le pasteur parle contre ce que je dis. Vécu l'autre jour au sud de la France. Il a dit, je ne suis pas d'accord. Mais j'ai dit, mais vous prenez ça ou dans la Bible. Il dit, non, mais c'est pas. J'ai dit, non, j'ai dit, écoutez. J'ai dit, c'est très simple. Moi, je crois que vous ne savez pas de quoi vous parlez en regardant déjà les finances du monde, l'économie du monde. Et puis ensuite, je crois que vous ne connaissez pas la Bible ou vous n'avez aucun argument quand vous n'êtes pas d'accord parce que vous ne pouvez pas argumenter. Donc, ça ne sert à rien. Prochaine question. Bien sûr, on ne se fait pas des amis, mais vous savez, moi je n'ai pas besoin d'être ami avec ceux qui, au sein de l'Église, en tant que conducteur spirituel, les mènent à l'abattoir. Tu es d'accord, Josiane? Je suis là. Je suis une des plus mauvaises adresses. Nous sommes appelés pour libérer le peuple. Et puis, vous savez, les pharisiens, ils n'étaient jamais gentils avec ceux qui venaient avec la vérité. Et puis, c'est encore aujourd'hui comme ça. Donc, et puis moi, ça ne me fait rien. Moi, je suis forgé par les affaires. Donc, je suis un dur à cuire. Donc, je ne me laisse pas tout de suite. Parce que je ne me laisse pas tout de suite fermer le bec quand je sais que c'est la vérité que le peuple doit entendre. Mais dans cette même église, est prévenu un ancien et il a dit, mais de toute façon, il y aura l'enlèvement avant. Moi, j'ai dit, bon enlèvement. J'avais envie de lui imposer les mains, les pieds. Bon, de toute façon, à l'enlèvement. Non, mais attendez, franchement, c'est ça une réponse. Mais après, il y a une dame qui est venue, elle a dit, merci. C'est la première fois dans notre église que quelqu'un a parlé de ça et ouvertement, et qu'il ne s'est pas laissé intimider par le pasteur X, parce que vous savez, il a fait un master en économie et puis un master en théologie. J'ai dit, oui, il est très intelligent, mais l'intelligence du monde est aussi loin de la sagesse de Dieu comme l'Orient de l'Occident. C'est aussi simple que ça. Puis après, il y a une autre dame qui est venue, elle a dit, merci beaucoup, on avait besoin d'entendre ça. J'ai de nouveau vu que souvent les femmes se lèvent et puis ils commencent à comprendre. Alors ça veut dire, pour répondre à cette question, beaucoup trop de chrétiens, enfants de Dieu, vont perdre inutilement leur bien au lieu de pouvoir le multiplier et devenir un puissant instrument de bénédiction, et c'est dommage. Prochaine question.
Non, d'accord. Hier, tu parlais de deux diapos avec être, faire et un troisième, procéder. Et, alors, c'est peut-être un peu plus personnel, mais moi, je suis très souvent dans le faire et j'ai du mal à comprendre comment être, comment faire concrètement pour être dans l'être. Est-ce que tu peux parler de ça?
Oui. Ben, ça correspond à tout doit venir de l'intérieur et après aller vers l'extérieur. Alors ça veut dire être, c'est d'abord connaître l'enseignement, l'affiner, le digérer, ensuite appliquer, faire les démarches nécessaires, formation, transférer des richesses non protégées par Dieu qui font partie du monde en biens, qui sont les biens, c'est les vraies richesses selon le royaume de Dieu. Il y a différentes possibilités, on a vu. Et puis, c'est en quelque sorte, c'est ce cheminement où on applique et puis on fait. Et puis après, on peut être un exemple, un témoin. Autre question ? Sarah ?
Oui, en fait, pour la partie application de tout ce que tu viens d'expliquer sur l'achat de granulés, investir dans de l'agriculture, etc., dans les hommes, eh ben justement, cette partie-là, pour moi, reste assez abstraite. Comment faire, où se renseigner, etc. Parce que comment mettre en application tout ça ?
Exact. Moi, j'ai toujours aux gens, quand ils font un séminaire, on ne vient pas faire un séminaire avec un enseignement pour vendre des trucs qu'on n'a rien à vendre ici, mais on ne peut pas donner un enseignement sur les finances sans parler de ce qui est essentiel, et puis après de dire, mettez-le dans la prière. Maintenant, si, quand les gens après disent, ah mais moi ça m'intéresse, okay, comment je fais maintenant ? Mais j'ai dit, mais dans ce cas, contactez-moi par email, il y a ma fille et moi, et puis quand moi je vais rencontrer les gens, en général je réponds toujours. Et puis c'est toujours très simple. Les gens disent, écoute, ça m'intéresse, voilà, comment je fais ? Et puis après, je dis, mais tu penses investir quel montant ? Comment est ta situation ? Et quand quelqu'un dit, j'ai ce qui m'intéresse, c'est aussi l'endettement. Mais si quelqu'un dit, j'ai 300 000 euros de dette sur un appartement, mais j'ai 100 000 euros de cash sur un compte bancaire, j'ai dit, ton appartement vaut combien actuellement, prix du marché ? Puis ça, c'est pas un problème, hein, on peut demander à un agent immobilier, il y a Sarah, entre autres. Et puis si cet agent immobilier dit, ça vaut 400 000, et puis tu as 300 000 de dette, c'est beaucoup trop. Dans ce cas, j'ai dit, n'achète pas de l'argent, rembourse 10 minutes de dette de 300 à 200 pour avoir que 50% d'endettement sur une valeur marchande de 400. Mais si la personne dit, non, mais je suis locataire, mais j'ai 100 000, j'ai dit, je te fais une proposition. Voilà, achète seul, ok. Dans ce cas, je te recommande 400 lingots ou médaillons comme réserve de guerre, basé sur Apocalypsis, que tu stockes de préférence chez toi à la maison bien cachée. Ça te coûte 10 000 euros. Ensuite, je te propose d'acheter un peu d'or. Pourquoi moins d'or que d'argent ? C'est parce que l'or risque d'être confisqué, comme les Américains l'ont fait pendant 40 ans, de 1933 jusqu'en 1973. C'est pour ça que certains disent que le gold standard a commencé en 73, mais en réalité, le gold standard a commencé en 71, mais l'or a été interdit de commercer et de posséder. Posséder, tu devais le vendre à l'État. Et si tu allais à ton coffre-fort, à la banque, tu avais un agent du FBI qui venait avec. Et puis lui, il regardait dans... Puis si tu avais de l'or, alors là, bonjour les dégâts. Si tu stockais chez toi, puis tu t'es fait choper, tu finissais en prison, puis confiscation. Et puis si tu l'avais à la banque, la même chose. Mais il y a des gens qui ont caché l'or. Mais maintenant, nous avons un problème, les chrétiens, que nous sommes appelés à ne pas trop tricher, non ? C'est pour ça qu'on dit ne n'achetez pas trop d'or, parce que s'il y a une confiscation, une interdiction, qu'est-ce qui va se passer ? Quand la monnaie du monde se casse la figure, mais c'est les valeurs de Dieu qui vont monter. Et l'or va monter. Et l'argent va encore monter plus. mais l'argent, on ne peut pas le confisquer parce que le 70%, même le presque le 90% est donc utilisé dans l'industrie. Donc ce n'est pas l'argent qu'ils vont confisquer, c'est l'or. Tu peux aussi garder l'or, mais si, c'est interdit, tu dois le rendre à l'État. L'or pourrait être confisqué comme aux États-Unis ou purement et simplement interdit de marchander. Quand ils voient que l'or est trop monté avec la valeur, ils pourront, parce que imagine-toi, ceux qui auront de l'or pourront acheter. Juste un exemple, le grand-père d'un de ces Allemands qui est l'inventaire de ces produits. Il vivait à Leipzig, Allemagne de l'Est, et il y avait en 1922-23 l'hyperinflation. Il est allé chez un paysan, il avait plusieurs enfants, il est allé chez un paysan avec des milliards de Deutschmark pour acheter de la nourriture parce qu'ils avaient faim. Le paysan qu'il connaissait à la campagne. Et le paysan a dit, mais vous savez, monsieur Böttcher, tout est confisqué, moi je suis malheureusement rien. Il a dit, mes enfants ont faim, etc. Il a dit, oui, je suis navré. Et puis il a dit, mais est-ce que ça? Il lui a montré une pièce d'argent. Le paysan. Ah, ça? Vous voulez du beurre, du jambon, du fromage, des œufs, un poulet? La vraie monnaie de Dieu, les amis. La vraie monnaie de Dieu. Et ça lui a mis la puce à l'oreille. Il est allé avec un lingot d'or à la banque parce qu'il a vu que dans la rue qu'il habitait, des maisons se vidaient. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'hyperinflation. Et les gens pensaient avec l'hyperinflation que pas seulement l'avoir diminue, mais aussi la dette. Mais monsieur le diable, il est raffiné dans une collaboration avec les banques. Les avoirs ont diminué, mais les dettes ont été taxées avec l'accord de l'État pour que les banques ne fassent pas faillite, de pouvoir appliquer 30% d'intérêt par jour. 30% d'intérêt par jour, chers amis, c'est 12 000%. Les gens ne pouvaient pas le payer. Les baraques étaient saisies par la banque. Avec ça, elles ont assaini leur bilan pour ne pas faire faillite, parce qu'elles mettaient pour une bouchée de pain, la maison dans le bilan. Et après, ils avaient ces maisons. Et puis, ce grand-père va à la banque et il dit, avec, ça c'est une once d'or, 31 grammes, aujourd'hui 1200 euros. Qu'est-ce que vous me donnez? Ils ont dit, vous pouvez choisir une maison dans cette rue. Une maison. Alors, ça veut dire que là, les vraies valeurs, la vraie puissance de l'argent et de l'or, nous allons le vivre ensemble. Mais le 98% des chrétiens vont passer à côté de cela et vont purement et simplement faire partie des perdants. Et c'est dramatique. Mais nous avons déjà quelques milliers qui ont compris. Mais c'est encore trop peu. Dans les grandes églises, on ne s'intéresse pas du tout. Oh là là. On joue à l'église de 9h30 jusqu'à 11h15. Et puis après, quand tu demandes les gens à la sortie, ils s'étaient bien, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a prêché? Ils ne savent même pas ce qu'il a prêché. C'est un peu dommage. Est-ce qu'on a j'ai répondu à la question? Ça va. Ça veut dire ça va plus ou moins. Hein? Est-ce que j'ai répondu? Ah oui, ah, donc oui, j'ai dit, dans ce cas-là, vous m'écrivez, et puis je vous poserai des questions sur la situation, puis après avec des conseils. Donc c'est ça que nous voulons. Les gens ont besoin d'être conseillés pour ne pas simplement acheter n'importe quoi, mais de savoir, voilà, ça et ça, et combien, dans quel pourcentage, et puis pourquoi plus d'argent que de l'or, ce que je viens d'expliquer. Et puis aussi au sujet avec l'endettement. Autre question? Pardon? Ah oui, d'accord.
Merci encore, mais il y a beaucoup de questions. Une des questions, c'est concernant, en fait, pour être dans le plan de Dieu, recevoir ce que Dieu a prévu pour un couple ou une personne seule. Vous avez parlé du côté où on doit s'unir, être en accord, hein, qui est biblique d'ailleurs. Mm-hmm. Vous avez rappelé en fait Joseph, hein, avec les montagnes russes. Donc ça monte, ça descend. On a comme l'impression que je parle de mon cas. Je suis en couple, marié, mais nous aimons Dieu, nous servons Dieu. Mais j'ai comme l'impression... En fait, c'est la réalité. On n'arrive pas longtemps à être unis, être en accord pour percer vraiment. Voilà. Est-ce que vous avez un secret? Est-ce que vous pensez que voilà, le problème, c'est peut-être moi, le mari ou madame, ou c'est nos passés, et ça a un lien avec le passé? Voilà. C'est-à-dire, chaque fois, j'ai comme l'impression qu'on revient à la case départ. On perce, on arrive quelque part, mais on redescend à la case départ. Voilà. Est-ce que vous avez un secret ou une proposition par rapport à ce que vous avez dit déjà? Je ne sais pas si j'ai été clair.
Oui, tout à fait. Il y a juste une nuance. Est-ce que vous entendez on a de la peine à être unis dans la prière ou on a de la peine à entrer dans la prière?
C'est plutôt à percer, à persévérer. Très souvent, concrètement, dès qu'on commence, on a une vision, on en parle, mais dès qu'on commence, ça dure pas longtemps et que ça s'éclate. Ça s'éclate, soit il y a, on voit pas les choses de la même manière, bibliquement parlant, chacun a son angle, chacun a son point de vue, chacun a son caractère, donc ça dépend de tous ces paramètres, mais parce que aussi, moi j'ai des origines différentes que mon épouse qui a d'autres origines, au fait, donc je sais pas si c'est un lien, mais c'est, on est un couple qui depuis aime le Seigneur, sert le Seigneur. Mais voilà, j'ai l'impression que Claire, on n'est pas là où on devait être.
Voilà.
On est parti à l'école, mais voilà, on travaille comme vous avez rappelé. On travaille plus à payer les factures. Donc, d'où ma deuxième question en fait, qui viendra après quoi. On travaille plus à payer les factures qu'épargner.
Une très bonne méthode est de lire la Bible ensemble. Nous lisons tous les matins la Bible ensemble. Actuellement, nous sommes dans Samuel, nous faisons, on fait la Bible, puis quand on est au bout, on recommence. L'avantage quand on est toujours un chapitre, et c'est moi qui lis. Et l'avantage quand on lit la Bible, c'est qu'elle parle. Mais aussi, c'est qu'on est sur le même sujet. Ça veut dire il y a comme une unité d'esprit qui se fait. Étant donné qu'on est dans la parole de Dieu, il faut se gaver de la parole de Dieu. Et c'est pas pendant des heures, mais un chapitre. Des fois je lis deux parce que je veux voir la bagarre commence. J'aimerais voir comment ça continue. Et puis nous prenons le temps. Ah ça crée une unité. Et puis après, nous prions. Prier, il ne faudrait jamais régler des problèmes dans la prière. Il faudrait prier, surtout bénir, remercier Dieu et le louer. Et puis ensuite, prier pour d'autres personnes qu'on souhaite entrer dans la foi. Nous prions pour les autorités, etc. On a toujours un peu le même déroulement des fois. Ça change un peu que particulièrement on le remercie. Et puis on lui apporte les prochaines interventions. Ça veut dire qu'on a des sujets où on est d'accord, mais on ne règle jamais de problème dans la prière. Et moi je pense qu'il faut juste ne pas tenir compte des vues différentes, mais de juste lire la Bible et puis prier pour remercier, bénir. Et puis intercéder. Et je suis sûr que ça puisse aider. Est-ce que tu penses, Lise, il y a autre chose? Alors, il y a la patronne. Il y a la patronne qui arrive.
C'est vous, monsieur? Oui. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ce que j'aime bien, c'est d'avoir. J'ai un carnet où je note les sujets de prière
Alors, par exemple, il y a un sujet, on discute ensemble, on cherche un verset dans la Bible qui correspond à la situation, qu'est-ce que Dieu en pense. Et après, on se met d'accord, comment prier? Et une fois, on se dit d'accord pour comment prier, soit c'est moi, soit c'est courte. Et après, le lendemain, on remercie Dieu pour le résultat de sa réponse. Mais on a noté dans le carnet. Et le jour où on reçoit la victoire ou la réponse, je le marque dans le carnet. Et on avance gentiment comme ça. Maintenant, je peux que vous recommander de peut-être commencer avec des petites choses toutes simples, pas compliquées, et regarder les résultats que vous pouvez vivre ensemble. Parce que si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord et ensemble, l'ennemi va tout le temps venir. Moi, je défends mon terrain et l'autre défend son terrain, puis on n'est jamais d'accord. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, c'est vraiment un travail. On doit apprendre à s'unir pour sa gloire.
Oui, c'est plus clair. Oui. Sinon, vous avez aussi parlé de, donc, des finances et tout ce qui est... tout ce qui est dîme, offrande, dons et la dette. Donc, pour, bon, vous savez qu'en France, on est des champions du monde puisqu'on nous offre, tu veux du mobilier, tu vas aller chercher. Donc, bref, nous, comme toute famille, la majorité ou une minorité peut-être, concernant notre, la dîme, si, bon, je parle de mon cas, où nettement, par rapport à ma famille, j'ai du mal à être fidèle sur tout ce qui est dîme, offrande, les dons, parce que la dîme ne suffit pas. Il y a l'offrande dominicale, par exemple, et il y a ceux qui ne peuvent pas, qui ont besoin d'aide aussi, parce que ça ne sert pas que j'aille aider, je puisse donner chaque fois à l'église quand mon voisin ou mon frère qui ne peut pas, pour différentes raisons de santé, que je ne vois pas, par exemple. Donc, ce qui fait que quand même, faut s'ouvrir le minimum que tu as. J'ai du mal, justement, à être fidèle sur tout ce qui est dîme, dons et offrandes, parce que j'ai des dettes envers l'État que je dois, en fait, honorer. Et voilà, tout simplement, par rapport à votre enseignement, vous avez été clair. Hein. Je pense que je vais m'en sortir une fois que je vais encore jeter un coup de dedans. Mais ça me revient à l'esprit. Qu'est-ce que vous me conseillez pour que je m'en sorte de cette situation, justement? Parce que, oui, j'ai du mal à...
Oui. Il y a... Vous allez faire le cours, là. Tout à fait. Voilà. Oui. Le chapitre 4, c'est endettement.
Tout à fait.
Énorme mode d'emploi. Grandiose. Si vous... Vous employez, vous mettez en pratique ce classeur, vous êtes condamné au succès.
Amen. Je crois.
Mais il faut faire le travail. Donc, je ne sert à rien de faire trop de théorie parce que ça nécessite un travail, ça nécessite de faire un budget, ça nécessite un plan de remboursement.
Tout à fait.
Ça nécessite le côté spirituel, comment associer Dieu dans tout ça, comment prier avec lui. Vous trouvez ça sur les DVD 40 jours, c'est le module 21. Le 20 était, qu'est-ce que c'est une dette? Et le 21, c'est comment sortir de l'endettement. Je suis un spécialiste.
Merci.
Spécialiste de créer des dettes et puis un spécialiste de dire comment on peut sortir de l'endettement, que Dieu soit loué. Avec toutes mes bêtises que j'ai fait. Papa, tu as utilisé ça pour ta gloire. Oui, on est là-bas, et puis après, ici.
J'ai deux questions. La première question, c'est que vous avez dit par rapport à la prière, qui normalement, il faut prier avec le compagnon. Malheureusement, je n'ai pas.
Une amie? Dans ce cas, une amie.
D'accord. En fait, je fais toujours ma prière tout seul. Et là, enfin, j'ai un petit doute maintenant par rapport à ce que vous m'avez dit, parce que je sais que je fais toujours tout seul et je l'ai eu. Mais par la question de dette aux finances, je suis un peu... un peu pas très douée là-dedans, parce que c'est vrai que quand je suis un peu dans le besoin, je cours plus par rapport à faire un... ou augmenter la découverte, ou alors faire un petit crédit. Et c'est vrai que maintenant que vous avez dit que quand on fait un crédit, il faut rentrer d'abord à la maison et demander un crédit à Dieu, c'est un truc qui ça m'a touché beaucoup, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais pensé en fait. Alors, si je prie avec une amie, c'est une idée aussi. C'est intéressant, mais je voulais savoir, est-ce que pour une personne qui est seule et qui a des enfants, est-ce que Dieu, il m'entendra si je fais la prière avec mes enfants?
Alors, là, j'ai une spécialiste que je vous présente, Lise. Lise est appelée au guichet numéro 2. Comment travailler avec Dieu quand on est seul en tant que femme? Parce que les femmes, ils ne les écoutent pas tellement, non? Il veut discuter entre hommes.
On n'est pas les chefs. Alors, moi, je me suis trouvée seule avec mes deux enfants. Et puis, ils avaient très envie de faire partie des fabricants de joie. Je ne sais pas si vous connaissez cette équipe. C'est des enfants qui chantent et dansent dans la rue pour évangéliser. Voilà. Et puis, pour faire partie, il faut aller payer un camp de formation pendant une semaine pour aller en Belgique. Et je n'avais pas l'argent. Alors, j'ai dit à mes enfants, écoutez, parce que mon ex-mari a quitté la maison, je ne travaillais pas, je n'avais pas de revenus, puis lui, il ne me donnait pas toujours de l'argent. Alors, j'ai dit, écoute, on va chercher un verset dans la Bible. Puis, je leur ai posé la question, pourquoi est-ce que vous voulez faire partie des fabricants de joie? Ils ont dit, on veut chanter et danser pour Jésus. Je dis, alors, ça, c'est bon, vous voulez glorifier Dieu. On a cherché un verset dans la Bible, on a trouvé. Et c'est dit aussi, si vous demandez quelque chose qui glorifie le Père dans le Fils, je vous le donne. Donc, j'ai dit aux enfants, on s'appuie sur ce verset, vous voulez glorifier Dieu, donc on demande à Dieu de nous donner l'argent pour payer ce camp. Et c'est ce qu'on a fait. Et après, les jours suivants, on a simplement remercié Dieu en s'y attendant à recevoir l'argent. Puis, à peu près 3 semaines plus tard, le facteur sonne à la porte. Il m'apporte l'argent, la somme exacte. Ça veut dire que je pouvais payer le camp. Je devrais acheter matelas pneumatique, sac de couchage, habits. Enfin, il fallait tout un tiraillement avec aussi. J'ai pu tout acheter et en plus, ils avaient de l'argent de poche. Un autre petit exemple, c'est qu'une fois, ma voiture elle était cassée et j'ai habité un peu en hauteur. Et puis, c'était la période d'hiver. Et si je n'avais pas une 4x4, je ne pouvais pas ramener mes enfants à l'école parce que la neige ne me permettait pas. Et puis, je dis à mes enfants, zut, alors, je ne sais pas comment on va faire. Et puis, mon fils dit, maman, on n'a qu'à prier. J'ai dit, ouais, d'accord, alors Benjamin, prie puisque tu as eu l'idée. Alors, il dit, Éternel, non, Jésus, je te prie que cet hiver, s'il neige, qu'il ne neige pas sur la route, mais dans les champs, parce qu'avec notre voiture, on n'arrive pas à aller sur les routes. Au nom de Jésus, amen. J'ai jamais eu de neige sur la route, c'était toujours dans les champs. Donc Dieu écoute aussi nos prières. Il répond. Voilà.
Merci. Et en tant que femme seule, Lise a aussi eu des moments où elle ne pouvait pas associer au milieu de la nuit une amie pour venir prier avec elle. Il n'y a aucun problème. Avec Jésus, on est deux. Jésus n'est pas un légaliste, on peut l'associer lui. Mais ce qui est bien, c'est quand même d'avoir une amie en tant que femme avec laquelle on peut tout partager, à laquelle on peut faire confiance et avec laquelle on peut prier, parce que c'est clair, c'est une très bonne chose. Mais quand on est dans la détresse, Dieu ne va pas dire « Non, je ne peux pas intervenir parce que tu es seul. » Non. Tu dis « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, il va être là. » Mais c'est juste pour dire que la prière à deux, c'est la Bible qui le dit, est recommandée. Et avec le cours, est-ce que... je crois qu'on a dit qu'on se tutoie, hein, on avait dit non. Vous pouvez toujours me tutoyer, puis si vous voulez que je vous voie, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu fais le cours, tu fais aussi ce cours après, en petit groupe? tout le monde. Mais là aussi, tu vas avoir des réponses dans le chapitre 4. Chapitre 4, comment on sort de... Comment on fait un budget, comment on sort de l'endettement et tout. Tout est dedans. Donc, vous pouvez vraiment aller de l'avant avec une sincérité. Mais il y a du monde, tout ce monde fait. Ils sont combien? Ah, mais dis donc, félicitations. Ah, ça, c'est vraiment pas mal, hein. Oui, exact. Il y avait encore là-bas le micro. Tu as le micro?
J'aimerais savoir, est-ce que tu aurais des conseils pour gérer une économie familiale, on va dire. Je sais pas comment expliquer. Non, mais enfin comment gérer financièrement une famille? S'il y a des priorités ou des choses, voilà quoi.
Alors, en général. Ça dépend quelle famille. Alors, avec, par exemple, 3 à 5 femmes, ça coûte très cher. Et là, il y a un excellent mode d'emploi, mais il faut aller voir à la mosquée. Du point de vue gestion familiale, c'est aussi compris dans cet enseignement. Dans cet enseignement, tu auras des exemples célibataires, seuls, célibataires avec un enfant, célibataires avec 2 enfants, mariés, sans enfant, mariés avec 1 enfant, 2 enfants, etc. Donc il y a tout dedans pour faire un budget. Ce classeur, ce document, est une véritable bombe atomique qui a apporté sa preuve des millions de fois. Et nous avons des témoignages du monde entier que grâce à cet enseignement, parce qu'il est basé sur la Bible, et basé aussi sur l'enseignement du monde. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer, si le monde a des réglementations, Dieu les respecte. Et donc, il nous appelle à respecter aussi. Oui? Est-ce qu'il y a encore une question ou est-ce qu'il y a ça? Alors voilà, c'est ce livre de 300 pages que vous allez recevoir. The Power of Money, il y a 12 thèmes. Vous allez les découvrir. Ces 12 thèmes, c'est le premier, c'est pour débuter. Ensuite, c'est la part de Dieu, donc ce que Dieu fait. Et puis, le 3, c'est notre part. Ensuite, c'est l'endettement. Ensuite, c'est numéro 5, le conseil. Le 6, l'honnêteté. Le 7, la libéralité. Par exemple, donner la dîme, etc., des offrandes, etc. Le 8, c'est le travail. Le 9, c'est investir. Le chapitre 9, investir, il faut plus ou moins oublier ce qui est marqué dedans, parce que le monde a tellement changé que nous ne pouvons plus recommander ce qui était encore valable il y a quelques années, où on peut dire faites des économies, et puis les enfants aussi, mettez-les par exemple à la banque, tout ça c'est terminé. Ou faites une assurance vie liée à une dette hypothécaire, et tout ça c'est terminé. Aujourd'hui, on recommande de justement pas faire ça, parce que tout a tellement changé que je vous propose de le 9, donc le investir, le chapitre, plutôt prendre je dirais, aller sur le site. Si vous allez sur le site internet, là, qui est indiqué, la Power of Money, et vous trouvez là-dedans une interview avec un magazine chrétien, c'est 9 pages où je réponds comment fonctionne le royaume de Dieu. Et là, vous avez beaucoup de réponses. Et vous trouvez aussi sur ce site, vous trouvez beaucoup, beaucoup d'indications, d'informations. Il suffit de chercher un peu. Ensuite, le numéro 9, 10, c'est l'éducation. Donc, comment éduquer les enfants? Le 11, c'est le contentement. Le contentement est très important, ça veut dire savoir combien est assez pour moi. Ça, c'est très important pour être... Autrement, vous n'êtes jamais content. Et puis le dernier, c'est le 12, c'est les perspectives éternelles, où on vous encourage à faire aussi, à régler le futur, donc votre passé et futur en cas de décès. Et comment approcher, pour ne pas dire affronter, l'avenir. Est-ce qu'il y a encore, en attendant, une question ?
J'ai juste une question concernant la dîme, mais au niveau de l'entreprise, parce que suite au séminaire business d'avril, j'avais vu mon expert comptable en lui disant justement que je souhaitais mettre ça en place, et j'étais étonnée de sa réponse parce qu'elle disait qu'en fait, on était limité en France à un petit pourcentage sur le chiffre d'affaires seulement qu'on pouvait donner à des associations ou autres. Donc concrètement, elle m'a dit que ce n'était pas faisable. Donc comment faire ? Est-ce que tu as une solution, ou peut-être d'autres entrepreneurs qui t'ont dit comment ils faisaient, eux, en France, pour faire ça ?
Oui, tout à fait. Vous avez en France, vous avez encore la chance que vous pouvez déduire. En France, oui, c'est zéro déduction. Zéro. Pour un privé ou pour une entreprise, vous ne pouvez pas déduire quand vous donnez la dîme. Ici, vous pouvez donner à une église, vous pouvez encore déduire jusqu'à un certain montant. En Suisse, vous pouvez oublier. Sauf si par hasard, mais ce qui est plutôt rare, l'église ou une œuvre chrétienne est exonérée d'impôts. Mais ce qui n'est pas trop facilement à obtenir en Suisse. Le montant que tu peux donner, qui est autorisé, ok. Tu le donnes. Si tu as, maintenant je n'ai pas un flip chart, autrement j'aurais dessiné ici, tu as une entreprise, donc tu as une société. Et dans cette société, tu prends un salaire et ton associé prend un salaire. C'est facile, sur ton salaire, ce que tu prends mensuellement, tu payes la dîme. À la fin de l'année, en déduisant dans la société les deux salaires qui sont sortis, plus les loyers, les assurances et les frais généraux et compagnie, plus des amortissements sur mobilier, ordinateur et compagnie, c'est un bénéfice qui reste, un bénéfice net, après ce que les impôts acceptent. C'est aussi valable pour ensuite calculer une éventuelle dîme. S'il y a encore un bénéfice, peut-être un petit bénéfice, là, tu as invité, oui, c'est une bénédiction si l'entreprise paye le 10% de ce bénéfice qui reste. C'est possible, mais ce sera calculé comme un retrait personnel. C'est tout à fait possible. Tu prends ce montant et tu le payes comme si c'était payé à toi. Ça veut dire que tu le prends sur toi, tu payeras des impôts dessus. Et puis avec ça, puis tu fais ça, par exemple, avec le partenaire. Tu dis, est-ce que tu es d'accord on est béni par Dieu, tu te souviens? Donc on pourrait aussi donner, mais ça nous fait, à nous, on doit payer les impôts là-dessus. Alors les gens font comme ça, et puis ça leur est taxé sur les impôts, puisque le fisc ne l'admet pas à déductible. Claude?
En fait, j'avais le même problème, mais en fait, c'est pas interdit, c'est... Enfin, oui, c'est limité à 0,5 pour 1000 du chiffre d'affaires, mais rien n'empêche de donner plus. Donc, tu donnes plus que tu veux, en fait, même 10%. L'association à laquelle tu donnes te donne un reçu fiscal, mais les impôts, en fait, n'accepteront que 0,5 pour 1000, c'est tout. Hein. Je veux dire, le reste, c'est tout à fait légal de donner, quoi. Oui, enfin, les impôts n'accepteront, en fait, la déduction que sur 0,5 pour 1000.
Le reste vient
donner
sur toi.
Autant que tu veux. Tu peux donner tout ton bénéfice si tu veux.
Mais tu payes les impôts comme un revenu personnel.
Oui, je suis salarié et syndiqué. Vous avez dit que vous n'étiez pas trop chaud pour les grévistes.
Tu voulais m'inviter?
Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses en tant que chrétien, quoi?
Oui, le problème est, en tant que chrétien, nous n'avons pas besoin de crier sur la rue ou dans la rue. Le problème est très simple. La parole dit, je m'appuie toujours sur la parole. Dieu dit à Josué, je combattrai à ta place. Il le fera aussi pour toi. Mais si toi tu combats à ta place, le Seigneur va dire, mon ami, je te laisse combattre. Ça veut dire, soit tu remets le combat entre les mains du Seigneur et tu pries, tu mènes le combat non pas contre la chair et le sang, ce qui est le cas avec les démonstrations dans les rues, mais que tu le mènes dans la prière et tu dis, Seigneur, moi je prie pour cette injustice, pour que dans le nom précieux de Jésus, il y ait une intervention ou une protection, etc. Et là, le Seigneur peut combattre à ta place. Mais si toi, tu combats, toi, il te laissera faire, et puis il va pas te punir. Il va simplement se retirer. Et ça, c'est dommage. Parce que quand lui, il combat à ta place, moi, je l'ai vu, quand il m'a dit, avec les banques, je combattrai à ta place, occupe-toi des personnes qui ont besoin de toi, qui sont endettées dans l'église et ailleurs. Et je l'ai fait. Et j'ai vu l'Éternel au combat. Tandis que mes partenaires qui ont combattu, ils ont fini dans 3 mètres sous le sol. Entre cancer, 6 cancers en 6 mois, entre suicide et puis un qui s'est caché à Antibes et qui combat encore aujourd'hui. Il a déjà dépensé plus d'un million en frais d'avocat. Moi, je n'ai jamais pas un centime en avocat. Et puis, il a toujours rien compris. Il est dans la foi, mais il n'a rien compris. Il combat. Il combat. Puis on se voit régulièrement, et puis je le laisse combattre. Mais j'ai dit, mais écoute, il a dit, puis toi, j'ai dit, moi, je suis dans la paix. Ah, chez moi, puis etc. Puis maintenant, j'ai changé d'avocat. J'ai dit, écoute, parlons autre chose. Moi, j'ai un avocat qui est gratuit. Ah bon? J'ai dit, en plus, moi, je peux lui téléphoner au milieu de la nuit. Non. J'ai dit, oui. Il est gratuit. J'ai dit, oui, puis c'est le meilleur que je connais. C'est mon grand Dieu. Ah, j'ai dit, oui, c'est ça. Tu ne peux pas faire plus que leur dire.
Ma question, c'était, je détiens une association ici, enfin, qu'on appelle une compagnie de théâtre, qui fait des théâtres, des ateliers d'une manière thérapeutique. Avec des enfants en difficulté scolaire ou des personnes âgées et tout ça. Et donc, ce n'est pas une entreprise, c'est une association. Alors déjà, je voulais savoir, par rapport à la DIM, comment ça se passe et l'évolution, puisque hier et aujourd'hui, on a vu ce qui est important pour le Seigneur, c'est l'homme qui est un... des services par rapport à l'homme. Et après, il y a l'immobilier, enfin, l'agriculture et tout ça. Voilà. Donc, je voulais surtout savoir par rapport à l'évolution et par rapport à la DIM.
Maintenant, une question avec cette association. Est-ce que tu fais du bénéfice?
Alors, en fait, c'est une association. Je réponds juste pour elle parce que je l'aide à faire toute la comptabilité de l'association. C'est une association, en fait, qui sert simplement à facturer les ateliers et à payer l'intervenante, en fait. Voilà. Donc, il n'y a pas de bénéfice. C'est à but non lucratif.
Alors, il n'y a pas de dîme. Tu t'investis déjà personnellement?
Oui.
Probablement gratos. Presque.
Oui, un peu. Enfin, pas complètement, parce que si je le faisais gratos, je pourrais plus payer de loyer ni rien du tout. Donc, je demande quand même le minimum syndical qu'une comédienne ou un acteur peut demander.
Et de ça, tu payes la dîme.
Et de ça, je paye la dîme de ce que je peux payer.
Suffit
ouais.
Largement. Suffit largement, puisque vous êtes une organisation à but non lucratif, donc vous ne faites pas du bénéfice comptable. Donc, tu ne payes pas de dîme. Vous faites déjà un investissement dans le royaume de Dieu en s'occupant des faibles. Et toi, tu payes encore avec... Si tu ne payes pas la dîme sur ton revenu, c'est pour ta propre bénédiction.
Ah oui.
Et là, tu demandes à papa un peu de... Oui. Tu lui demandes, tu dis, j'ai semé. Il a dit, moi, je vais aussi vivre ça.
Oui, c'est ce que je vais faire.
Oui. Tu dis, papa, renvoie la marchandise. Ben oui, il est bourré aux as, comme on dit, vulgairement parlant.
Oui. Oui, d'accord. C'est ce que je vais faire.
Voilà, ça me fait plaisir.
Super, on est bien dépassé au niveau du timing. Merci beaucoup. Est-ce que, Court, tu prends encore peut-être une, voire deux max questions? Une?
Oui.
Si t'es OK?
Peut-être... Quelqu'un qui n'a pas encore osé poser une question?
Alors c'est peut-être une question très simple et voilà, juste parce que je m'y connais pas trop. Vous parliez avant de la dîme et ensuite des dons et des offrandes, et que c'était les dons et les offrandes qui faisaient la multiplication, si j'ai bien compris. Moi, ma question, c'est quelle est la différence entre la dîme et le don et les offrandes?
Oui, la dîme, c'est 10% du revenu, et les offrandes et les dons sont spontanés. €10 à quelqu'un qui est dans le besoin, ou €20, ou lors de la collecte du dimanche, ici.
Est-ce qu'un don, au final, est-ce que la dîme, ce n'est pas un don à hauteur de 10%?
Oui.
C'est ça?
La dîme est en quelque sorte un dû. Dieu souhaite à ce que nous donnons les premiers 10% à la maison de l'Éternel. Et ensuite... C'est en principe ce que le peuple d'Israël devait donner obligatoirement. Mais eux, ils avaient 3 dîmes. Ils arrivaient à 23,33%. Parce que la première dîme était pour les lévites, les pasteurs. La deuxième pour faire une fête. Et la troisième, tous les 3 ans, pour la veuve, l'orphelin, le pauvre et l'étranger. Ce qui faisait additionner 23,33%. Nous appliquons la dîme de 10%. Et ça, c'est en quelque sorte presque un must. C'est quelque chose que nous devrions donner à l'Éternel pour lui montrer que nous sommes reconnaissants et puis que nous avons confiance. Et après, si nous donnons encore un peu en dehors, faisons des offrandes et des dîmes, on peut le lire dans le livre de Earl Pitts, Bien riche et c'est argent, lui, sur, je crois, une vingtaine de pages, il explique la dîme. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la dîme, mais bien sûr, je connais quand même un peu comment ce qu'elle est et puis ce qu'elle représente. Mais je ne veux pas être un spécialiste parce que ça ne m'intéresse pas. Je dis simplement, donnez et il vous sera donné. Donner va purement et simplement déclencher une bénédiction qui vient en retour. Donc, voilà, dîme, oui. Puis ensuite, de temps à autre, une offrande par-ci, par-là, le dimanche. Nous donnons la dîme et le dimanche, nous mettons toujours quelque chose dans la pochette. Et puis des fois, on donne à quelqu'un pour le bénir. Et avec ça, surtout quand les gens savent qu'on est dans la foi, puis qu'on est généreux, ça touche les cœurs. Avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses. On peut même témoigner de l'amour en bénissant. Et puis ne pas être un radin. Et un radin qui, quand il est au restaurant, quand le service est nul, il faut rien leur donner en plus. Ça je suis aussi d'accord. Mais quand quelqu'un est sympa, et puis on s'est bien amusé, et puis cette personne était attentive, on peut dire, soyez bénis, dans le nom de Jésus. Mais si tu le dis, puis tu lui donnes un centime, tu n'es pas très crédible, mais si tu lui glisses un billet, puis tu le bénis. Voilà. Autre question?
J'ai une dernière question, et je pense que c'est plutôt pour votre femme, je ne sais pas. Par rapport à la dîme, par rapport aux offrandes, par rapport aux cadeaux, tout ce qui va avec, j'ai un petit problème en fait. La dîme, je n'ai pas de souci, mais en fait, j'ai à cœur, c'était de donner de tout ce que je reçois vraiment. Donc, c'est-à-dire en France, on reçoit le salaire, on reçoit les allocations, les aides, n'importe. Et mon problème, c'est que je n'arrive pas à retirer. Enfin, si c'était un salaire qu'on est à me donner en main, j'ai arrivé à retirer déjà le 10% pour mettre de côté. Mais comme c'est une chose qui se tombe comme ça, donc on fait juste un virement, on va dire. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas la bonne chose parce que ce n'est pas ce salaire vraiment qui est tombé et que je l'ai retiré le 10%. Alors j'aimerais savoir comment faire en fait. Est-ce que c'est pas un problème ou c'est pareil ou comment vous pouvez m'y aider pour faire la bonne chose, on va dire.
Alors la question pour bien comprendre, c'est juste que le salaire, tu payes, tu prends cash, donc.
Je ne prends pas cash en fait, c'est justement pour ça, parce que ça tombe comme ça. Et donc j'ai.
Oui. Ah oui.
Tout à fait. Excuse-moi. Non, en fait, le salaire est enfin en Afrique, on va dire.
Il tombe de quelle hauteur? Parce que moi, toi, moi, je donne la dîme. Moi, c'est simple. Les offrandes, je prends des billets et aussi des pièces. Je les lance et je dis, Seigneur, ce que tu veux prendre, tu prends, et ce qui retombe, je garde.
Simple. Non, en fait, c'est... chez nous, au pays, enfin, pas moi forcément, mais ma mère, je voyais, ma mère, elle venait avec le salaire dans la main. Donc, elle a retiré tout de suite à côté, le 10%, et elle a donné à l'église. Mais le problème, c'est que moi, je fais les dîmes, une espèce de virement ou que tu fasses un chèque. Mais j'ai l'impression que je ne fais pas la bonne chose parce que j'aimerais vraiment retirer le 10% avant que l'électricité vienne retirer, les dettes viennent retirer. Avant tout ça, je voulais vraiment retirer. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que ça...
Parce que l'électricité, c'est facturé automatiquement ou tu donnes...
Ouais.
Ouais. Ils vous déduisent directement.
Ouais, le loyer aussi, c'est automatiquement.
Ah bon?
Oui.
Ah, vous avez leur donné le droit?
Ouais.
Ah oui, mais ça je fais jamais. Nous donnons jamais le droit. Nous donnons jamais le droit de débiter directement. Ils demandent toutes tout le monde demande. Est-ce que vous voulez directement remplir pour que c'est débité directement les cartes crédit, ceci, cela? Niet, 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 niet. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que nous voulons un contrôle à qui nous payons. Si on te débite automatiquement, par exemple les cartes crédit, m'ont dernièrement facturé un montant de 300 euros qui n'était absolument pas de moi. Si j'avais donné une autorisation de débiter directement, ça aurait été débité. Mais là, comme je n'ai pas donné, j'ai écrit, j'ai dit... Je paye la facture sans ces 300. C'était d'ailleurs en France quelqu'un qui a abusé, qui je ne sais pas comment, qui a eu mon numéro. Et je n'ai même pas été en France à cette époque et surtout pas dans cette ville. Et puis qui a dépensé ça dans un restaurant et donc je n'ai pas payé. Mais j'aurais dû courir derrière et apporter la preuve. Tandis que là, j'ai dit, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, vous ne pouvez pas. J'ai dit, vous ne pouvez pas. J'ai dit, vous ne me connaissez pas, moi, vous. J'ai dit, moi, je vous dis ce que je peux et ce que je fais. Je ne paye pas quand ça ne me convient pas. Elle a dit, oui, mais nous avons des règlements. J'ai dit, les règlements, je n'ai rien à cirer, juste pour être clair. Ça, ce n'était pas dû. Donc, vous m'apportez la preuve que c'était moi et puis je paye, mais vous ne l'aurez pas, la preuve. Et puis, 3 semaines plus tard ou 2 mois plus tard, ils ont écrit comme quoi c'était effectivement, etc. Alors, moi, je ne donne pas le débit automatique. Parce que c'est vrai, la dîme, quelqu'un m'a dit une fois, si je paye toutes les factures, mais c'est véridique, à la fin, je n'ai plus l'argent pour payer la dîme. Et puis on a dit à cette personne, commence inverse, paye la dîme. Puis elle a dit, mais c'est bizarre, ça a fonctionné. Là, on entre, chers amis, dans quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre quand Dieu est à l'œuvre. Que quand tu tournes et tu lui mets d'abord tout un coup, et ça ne s'explique pas. Ça, vous comprenez ça? Lise, je dois encore... Lise.
Non,
Lise est la spécialiste pour des trucs comme ça. Raconte quand tu as fait les achats avec 100 francs.
D'accord. Oui, chef. Voilà. Alors, c'était encore cette période où je me trouvais seule avec les enfants, que je n'avais pas encore un travail. Et puis, j'allais toujours faire les achats le lundi pour toute la semaine, parce que j'ai habité dans un petit village pour économiser l'essence, le temps et tout ça. Et je réalise qu'il me reste 100 francs suisses pour faire des achats pour toute la semaine. Et puis, j'avais ma liste de courses. Et puis, dans le moment, le matin, dans la prière avec Dieu, je lui montre les 100 francs et ma liste de courses. Je dis, voilà, Éternel, j'ai besoin d'acheter tout ça. Il me reste que 100 francs. Maintenant, je crois à ta parole qui dit, je pourvois à tous tes besoins. Donc, je crois qu'avec ces 100 francs, je peux acheter tout ce que j'ai besoin sur ma liste. Et je te fais confiance que ça marche. Au nom de Jésus, amen. Donc, je suis allée dans le grand magasin. J'ai commencé à remplir mon caddie. Puis, j'ai dit, au fait, Seigneur, parmi les choses que j'ai sur ma liste, si je trouve quelque chose qui est en promotion, je le prends. Pourquoi pas? Mais s'il n'y a rien en promotion, je prends au prix fort. Vraiment, je te fais confiance. Et c'est vrai, j'ai rempli mon caddie. Et puis, des fois, je dis, Seigneur, tu ne me laisses pas tomber. Hein. Puis, je mets tout... le produit sur le tapis roulant. Puis c'est vrai, j'avais mon cœur qui battait un peu fort, mais j'ai loué Dieu. Je dis, je te fais confiance, hein, Éternel, ça marche avec toi. Mais j'ai pas non plus fait le calcul. Quand je mettais les produits dans le caddie, j'ai pas dit, oh, ça fait 10 francs, ça fait 2 francs. Non, j'ai vraiment fait confiance comme ça. Et ça a marché. J'ai même reçu de l'argent en retour. Et c'est la première fois que j'ai mis ça en action. Mais bien deux fois plus tard, j'ai vu que ça marche. Et quand j'avais pas assez d'argent, j'ai prié, puis ça marchait. Dieu, il pourvoit à nos besoins. Je sais pas comment il a fait, mais ça a marché.
Merci beaucoup. Ça, c'est un exemple. Très probablement, ce qu'elle a acheté représentait plus que 100 francs. Mais Dieu n'a pas triché. Et la migre n'a rien perdu. Parce qu'en lui, il donne, c'est jamais au détriment de quelqu'un d'autre. Vous vous souvenez, je l'ai déjà dit. Le monde, c'est toujours quelqu'un qui doit payer, mais lui, il peut donner. Personne doit payer pour ça. Parce que Jésus a tout payé sur la croix. Alors, ça veut dire, elle a très certainement eu avec toute la liste plus que 100 francs, parce qu'elle m'a dit, mais c'est ça. Quand je voyais la liste, je me suis dit, mais puis le chariot, ça représente nettement plus. Mais Dieu peut faire en sorte à ce que ça reste dans le budget, et puis que ni la migre perd rien, et puis l'enfant... Son enfant est béni. Et c'est la même chose. Les gens qui ont mis la dîme d'abord et ont fait les paiements, ils n'ont pas compris, mais ils n'ont pas compris comment c'est possible que tout un coup ça fonctionne. Parce qu'ils ont mis Dieu à la première place. Je le recommande vivement. Dernière question et après on passe à la fête. Est-ce que le champagne est prêt? Ah voilà.
Dans la continuité de l'offrande, les dons, la dîme, est-ce qu'il y a une précision aussi par rapport à où apporter l'argent ou à qui donner?
Oui.
J'ai déjà vu et lu et entendu beaucoup de choses.
Oui.
Est-ce que c'est essentiellement à une communauté, une église? Est-ce que ça peut être une association chrétienne? Est-ce que ça peut être pour bénir un ministère, pour bénir un pasteur, pour bénir un évangéliste? C'est pour envoyer un orphelinat chrétien à l'autre bout du monde, etc. Il y a plein d'exemples possibles. Oui. J'ai aussi lu, c'est essentiellement, la dîme est essentiellement pour faire avancer le royaume de Dieu, alors que les dons et les offrandes, c'est pour bénir tel et un tel. Mais bon, ça se rejoint aussi au final.
Oui.
Donc... est-ce que la Bible est plus précise que...
C'est une très bonne question. Lise les bulletins de versement, s'il te plaît. La dîme, elle va là où on reçoit la nourriture spirituelle. Parce qu'elle était initialement prévue pour les Lévites. Et les Lévites, aujourd'hui, sont les pasteurs. Donc, il ne faudrait pas dispatcher la dîme. Je paye là, et là, et là, et là, puis encore un peu à l'église. On devrait le concentrer sur l'Église afin qu'il y ait une action coordonnée. Sauf si vous êtes dans une Église, ça arrive aussi, malheureusement, où l'argent n'est pas bien géré, où il y a même des abus. Et là, j'ai compris qu'il y a des gens qui sont venus, plusieurs, et m'ont dit, chez nous, il y a le problème de ceci et cela, etc. Et là, j'ai dit, effectivement, moi, à votre place, moi, j'aurais aussi de la peine à payer la dîme quand je vois que, manifestement, il y a un vrai problème. Encore, est-ce délicat parce que dans le livre de Holpitt, que je vous recommande vivement, il dit que ce n'est pas notre problème. Mais moi, je suis peut-être encore un peu moins dans un état de sanctification que Earl. J'aurais la tendance à dire non à ce que je vois, non, franchement, je ne me sens pas à l'aise. Ça, c'est un peu moi. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Mais c'est quand même l'exception, une église qui, où il y a des doutes comme ça. En général, dans 95% des cas, je pense, on peut partir de l'idée que c'est des gens corrects qui sont derrière. Un où je ne donnerai jamais un centime pour ne pas le nommer, c'est Benny Hinn. Ça, c'est rien d'autre que d'escroquer les gens. Escroquer, je dis escroquer. Et d'ailleurs, il aura des comptes à rendre. Il était deux fois à notre église à Ambi, j'ai dit à Luc, encore une fois, puis Courpulman n'est plus membre de cette église, juste pour être clair. Quand on invite des voleurs comme ça, mon nom est associé, les gens disaient, tu es dans cette église. Parce que le type a clairement dit, en dessous de 50 euros pour la collecte, il ne faut pas penser. Et après, il y a des gens de Paris qui ont fait un séminaire avec nous, qui m'ont écrit parce qu'on est en contact avec eux, puis qui ont dit, demain soir, on a une... C'était cette année, début d'année, je crois. Il y a une soirée avec Benny Hinn. Voilà, et puis c'est un sujet de machin truc. Et puis moi, j'ai simplement écrit, soyez vigilants si jamais il y a la collecte. Et puis, parce qu'il y a eu des problèmes, donc soyez vigilants. Et puis le lendemain, je ne sais plus s'ils ont téléphoné, en tout cas, ils nous ont partagé qu'ils ont reçu une enveloppe qui a été distribuée. C'était marqué. Pour la dîme, c'était marqué dessus 1000 euros cash ou en deux versements, trois versements, 10 versements, 1500 euros, pardon. 1500 euros. Il a distribué des enveloppes comme ça à toute l'assemblée. Je ne sais pas si tu as été. C'est un escroc, disons-le. Moi, je lui dirais en face, et puis clairement. Alors ça, non, des gens comme ça, là il faut les éviter. OK. Alors maintenant, l'Église réformée. Nous avons été dans l'Église réformée. On ne payait pas la dîme à l'Église, on payait ailleurs. Parce qu'ils n'ont rien compris s'ils n'avaient versé. J'ai dit au pasteur, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'était pasteur dans la foi. Et ils m'ont dit, mais cours, ne verse surtout pas la dîme. Par contre, on a le groupe de jeunes, ceci. J'ai dit, oh là là, on va cartonner là-dedans, on va les soutenir. Ouais. Ah mais c'est... Non, et puis en plus, en Suisse, l'Église réformée, il faut l'assoiffer. Assoiffer. Parce qu'ils prêchent que l'enfer n'existe pas, et puis ils font ils célèbrent des mariages homosexuels, donc il faut les assoiffer. Mais ouais.
Merci, Kurt.
Il vous en prie. Kurt, vous en prie.
Je sais que vous...
Vous connaissez les guignols, non? Quand Alain Delon dit « Il vous en prie ».
Bravo, merci. Je sais que vous avez encore beaucoup de questions. On pourrait passer longtemps à discuter du sujet. Si vous avez des questions, je vous propose de les noter. Vous avez la possibilité d'être en contact avec Kurt par email. C'est ce que je fais personnellement aussi. J'ai des questions, je pose par email. Il répond, il prend le temps. Et j'étais vraiment surpris du délai de réponse. Il est vraiment très performant. Donc merci, Kurt. Et merci pour cette journée. Est-ce que vous avez été béni? Est-ce que vous avez reçu des clés, des principes? Je crois qu'on a vraiment tous reçu. Et puis, vous pouvez faire le séminaire deux fois. On reçoit encore. Comme moi, c'est vrai que c'est de là-bas, c'était extraordinaire. Merci Kurt, merci Lise. Elle est déjà partie. Je propose qu'on arrête maintenant. On a à peu près une heure de décalage. C'est vraiment une bénédiction d'avoir pu encore répondre à vos questions. Donc merci Kurt encore. Il nous en prie.